Wild, l'émission. Présentée par Benjamin Warlop et Fleur Thierry.
Deux semaines, Joseph.
Deux semaines, c'était très long. C'était très très long, voilà.
Bah ouais, mais il y avait là tout ça, il y avait tout ça, on était...
Fallait honorer nos morts, hein. Voilà. Par exemple, hein.
Tout à fait, tout voilà. À fait. Ça va bien, toi ?
Ça va très bien, et toi-même ?
Ah bah ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et ça rigole déjà, qu'est-ce qui se passe ?
Ah, on fait des bêtises. Parce qu'on s'ennuie, vous parlez de choses d'adultes, et nous, on a envie de s'amuser.
On peut, voilà. Très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle.
On peut être archi-gamin, si tu veux, Céline, il n'y a pas de soucis.
Moi, je suis là pour faire des jeux, non ?
Eh ben, on va jouer.
Et comment qu'on va jouer ?
On va bien jouer. Bonsoir, Flore.
Bonsoir Benjamin.
Ça va ?
Mais oui.
Oui. Très bien. On te critique, toi, des fois ou pas ?
Ah ouais.
Ah, on n'aime pas ça.
Un peu comme Paul McCartney.
Bah oui, évidemment.
Je pense qu'il y en a un qui a beaucoup de haters aussi, c'est le pape François. Et tu vois, même si le pape peut avoir beaucoup de haters, tu te dis que.
C'est ça. Les haters, c'est la vie finalement. Donc on dit bonsoir aux haters. Hein,
bonsoir, les haters.
Si vous nous regardez.
Bonsoir, on vous encule.
Non, on fait des gros bisous.
Attends. Pour moi, c'est un signe d'affection d'enculer quelqu'un. Donc voilà. C'est de l'amour.
Ce n'est pas une insulte.
Non, absolument pas.
Mettons-nous bien d'accord.
Tout à fait.
Bien, Flore, tranquille ?
Tranquille.
Ouais. Je suis très content, parce que c'est lundi et qu'on se retrouve. Et je vais te présenter les invités de cette émission de ce soir.
Et la thématique, qui est, avant de présenter les invités, sur le...
Porno.
Porno.
On n'avait pas averti.
Oh.
Moi, je connais
pas.
Et alors, ce soir, qu'est-ce qu'on a ce soir ? On a Céline Tran. Céline Tran, qui est une ancienne actrice X et qui a sorti un livre au début de cette année. Ne dis à personne que tu aimes ça.
Ne me dis pas que tu aimes ça.
Ne
me dis pas que tu aimes ça, pardon, excuse-moi.
Genre, ne le dis à personne. Ne le dis à personne.
Ferme ta gueule.
Ferme bien ta gueule. Sinon, on va te retrouver, on va te finir.
C'est la chanson qui va venir après le.
C'est ça. Tu es aussi coach sexo et tu gères une collection de bandes dessinées aux éditions Glénat qui s'appelle Porn and Pop.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Et on a aussi Lady Jagas du blog lesdéculottés.com.
Deuxième fois que tu viens ici ?
Ouais.
T'étais venue pourquoi la première ?
Je sais plus.
Tu t'en souviens un peu ? J'ai moins de scrupules à pas m'en souvenir. Mais c'était hyper intéressant, je le sais.
Ouais, non, mais c'est sûr. Mais alors, de quoi avons-nous parlé ? Pas porno. J'ai pas souvenir que c'était porno.
Non. De cul, ça de cul.
Non, on avait parlé. En fait, tu étais là avec les. Quand tout à coup.
Oui, oui.
Et donc, on avait dû parler des jeux de société, des jeux érotiques. Ouais.
Exactement. Wow. Ah, voilà. Il faut toujours une flore dans l'espace.
Et bah, c'était il y a un an.
Ouais, exactement.
Je me rappelle très bien, c'était avant Noël.
Voilà, donc je fête un peu mon anniversaire wild ici.
Et bah,
c'est
ouais.
Ça.
Et
voilà.
Et bien, re-bienvenue à toi. C'est cool, on aura aussi Marine Gasque au téléphone. Est-ce que tu la connais ?
Non.
Et bah, elle fait une BD, elle a kickstarté ça et ça marche très très bien. Par exemple, elle est capable de répondre à des questions. Est-ce que Cléopâtre a sucé 100 soldats nuit, un jour, par exemple,
bah oui,
tu
vois. Je me pose la question.
voilà,
est-ce que Cléopâtre, surtout la réputation, c'est le fameux nid d'abeille vibromasseur.
Tu sais, on lui prête l'invention du vibromasseur avec des abeilles dedans.
Je savais pas.
Voilà. Et bah, c'est un gros mytho de
un
ouf.
C'est un gros fail, ça. Voilà. Ouais.
Donc elle déconstruit ces mythes-là, est-ce que la levrette existait au Moyen-Âge
Mais elle se baignait pas aussi avec des laits de sperme, Cléopâtre
Oui, ouais. Enfin c'est, non, enfin, c'est pas du lait,
mais...
ouais, c'est du lait d'ânesse.
Moi pendant longtemps j'ai cru que c'était du sperme. Mais
d'accord, ça c'est encore autre chose, ça, c'est toi qui réinventes l'histoire.
Bah, du coup si tu suces 100 mecs, tu peux te baigner après dans un bain de sperme. Tu vois l'image, Joseph visualise très bien.
Non, je pense que 100 mecs, c'est pas suffisant. Je sais pas comment tu fais tes calculs.
Non,
mais...
100 mecs, franchement, 100 mecs, t'as un quart de saut peut-être. S'ils sont.
T'as pas les mêmes mecs.
Début de canette. Ouais, voilà. Une gorgée peut-être.
Une gorgée. Ouais.
Une bonne goulée, quoi. Tu mets du Red Bull dedans, t'es en forme. Ouais.
On peut voir combien de mecs faut-il pour remplir une baignoire.
Tu sais que j'ai
baignoire.
Fait ça. J'ai fait combien d'éjaculations faut-il pour remplir une baignoire.
Tu pouvais juste te dire
problème de maths du certificat d'études de 1932.
J'ai un dossier là-dessus. J'ai fait ce calcul et je te trouverai la réponse la semaine prochaine.
Si et ben, je suis curieux de ça.
Mais j'ai déjà fait le calcul.
Voilà, est-ce que le général de Gaulle avait un plug anal ? Enfin, tu vois, on parlera de ça avec elle tout à l'heure. C'est des questions très intéressantes qui, moi, me fascinent, personnellement.
Bah, c'est l'histoire.
Exactement, Céline, c'est l'histoire.
C'est l'histoire.
France 2 à Stéphane Bern, Wild à Flore.
C'est surtout que De Gaulle, il payait ses plug anal sur ses propres deniers et il n'utilisait pas l'argent public. Et c'est ça qui faisait que c'était un grand homme.
Voilà. En parlant d'anal, les questions de Flore ce soir, sur quoi ?
Bah, sur le porno.
Tout simplement. Il y aura des magazines Union à gagner. Et puis, on va jouer. Moi, j'ai demandé avant le début de cette émission si, Céline, tu étais allergique à l'hélium.
Eh bien, je ne sais pas, et nous le saurons bientôt.
Je crois que dans une heure et demie, tu vas...
Alors, effet secondaire, crise d'angoisse, gonflement.
Gonflement, œdème, ce genre de
voilà,
choses.
Très bien, voilà. Diarrhée.
Perte de connaissance.
Magnifique.
Alors, je sais
j'ai
pas.
Hâte.
Si, j'ai hâte. Voilà, ce sera pour gagner un sextoy Lelo et tu pourras faire gagner un auditeur. Qui okay. serait avec nous au téléphone. C'est, du coup, c'est hyper sérieux. Il y a une vraie responsabilité
derrière
ça. Non, mais
je ne plaisante pas du tout. Jamais.
On dit bonsoir à Anso. Anso, qui est là à communiquer avec vous, c'est notre petite sœur dans cette émission. Et qui vous live tweet, qui échange, qui répond à toutes vos questions. Si vous avez envie de la brancher, ben elle est là. Tout simplement. Voilà, j'en profite pour dire que cette émission est évidemment disponible en podcast sur iTunes, sur Deezer et puis récemment Spotify. On est partout. Quelqu'un veut nous écouter. Enfin, celui qui n'arrive pas à nous écouter.
Faites gaffe parce que ça me met la pression là. Maintenant, je me dis, faut que je sois très sérieuse et que
bien
je dise pas de bêtises.
Évidemment.
Si vous voulez participer à cette émission, qu'on vous rappelle, n'hésitez pas. On adore vos questions, vos témoignages. Vous pouvez le faire également dans la room. On parle ce soir de porn. On va aussi parler de bisexualité. On a posé la question aujourd'hui sur nos réseaux sociaux parce qu'on a un petit peu tendance à penser que dans le milieu du libertinage, la bisexualité féminine, elle est un peu obligatoire. Et vous avez été très nombreux à répondre et à témoigner justement sur cette thématique. On en parlera tout à l'heure. Voilà.
Voilà, voilà. Ça veut dire que je vais reparler de Simone de Beauvoir, ça.
Bah oui.
Tu vois, de cette fameuse histoire de lesbianisme féminin qui serait plus naturel.
Plus naturel, en
voilà.
fait, c'est ça le terme. C'est pas obligatoire, c'est naturel.
Oui.
Alors que les hommes, pas du tout, hein. Alors, les hommes, c'est pas des PD, les hommes.
Non, mais cette bonne vieille Simone qu'on pouvait pas accuser de ne pas être féministe disait que le lien charnel que tout être humain a avec sa mère... favorise la bisexualité féminine par opposition au rapport au père dont le corps est très distant les premières années de nos vies, à tous autant que nous sommes.
Et on peut commencer par ça si vous voulez hein, dans l'émission, parce que moi je trouve ça hyper intéressant. Je vais reprendre les témoignages que nous ont donné les membres. Alors il y a des gens de bois, des libertins, mais il y a des gens qui sont pas libertins qui nous ont questionnés sur les réseaux sociaux et voilà. Alors au lieu de s'interroger sur le tout bi, ne faudrait-il pas se demander si nous sommes tous bi et que certains libertins arrêtent de concevoir la bisexualité comme quelque chose d'obligatoire chez les femmes et contre nature chez les hommes, ce qu'on disait il y a quelques instants. On a l'impression que chez les mecs, c'est no pasaran. Pourquoi, à ton avis, Tatiana ? T'as déjà écrit là-dessus, et c'est vrai que c'est passionnant, finalement. Pourquoi c'est obligatoire, entre guillemets, dans le milieu du libertinage
Encouragé, on va dire, plus qu'obligatoire, encouragé.
Ouais, ça dépend, hein. Ça dépend.
Ça
dépend.
Ça peut être obligatoire.
Pas obligatoire, mais en tout cas, ça peut éviter aussi des rencontres si jamais c'est pas le cas.
Ouais, voilà. Bah, moi, je pense que, mais Céline nous le dira aussi, c'est potentiellement l'influence du porno aussi qui représente beaucoup plus la bisexualité féminine que masculine. Ou en tout cas, même quand c'est du lesbianisme, bah, y a une tendance plutôt bisexuelle que vraiment lesbienne dans les films. Donc peut-être qu'il y a cet imaginaire-là qui donne aussi l'impression que c'est plus naturel chez les femmes que chez les hommes. Mais il n'y a pas que le porno, en vrai, parce que si on pense à même des films populaires, tu prends, je ne sais pas si vous vous souvenez de Sex Intention.
La scène du bisou.
La scène du bisou, tu vois, qui est hyper mythique. Donc là, c'est forcément deux femmes. Donc ça a marqué tout le monde. Au final, j'avais 12 ans, on pensait tous que... Enfin, tous les mecs pensaient qu'on allait toutes le faire. Il y a ça, t'as... je sais pas, il y avait le baiser de Madonna et de Christina... Non, et de
Britney Spears. Ouais.
Pareil, donc on a plein de petits éléments comme ça dans la pop culture qui montrent le baiser féminin de manière... naturel, quelque chose voilà qu'on aime toutes faire
entre copines, voilà lors de nos soirées pyjama.
Exactement,
bien sûr.
Forcément, on termine, ouf, bisous,
ah,
mince, en fait c'est trop bon, viens on continue, enfin ouais. Tu vois, il y a un petit côté comme ça, alors que on voit jamais ça avec des hommes, enfin, ou alors t'es tout de suite homosexuel. Et donc du coup je pense qu'en plus, comme il y a une tendance, enfin pas mal de mecs qui ont quand même des tendances homophobes, etc. Et bah du coup, le baiser entre hommes est tout de suite associé à grosse tapette, j'ai envie de me prendre une bite dans le cul, alors qu'en fait, pas quoi.
Et je pense qu'il y a des femmes aussi qui jouent ce jeu-là, c'est-à-dire voir leur homme, même qu'ils se prennent un truc dans le cul, en disant « Ah, t'es une tapette, t'aimes bien le sexe anal ». Les femmes aussi sont complices.
Ouais,
hein,
bien sûr, les femmes aussi sont complices, et elles vont même, peut-être même être complices dans la bisexualité féminine, parce que je pense qu'il y a aussi plein de copines qui vont un peu jouer ce jeu-là pour séduire des mecs, alors qu'elles n'ont rien de bisexuel, mais juste, elles disent « Ça va l'exciter, donc je vais emballer ma copine devant lui pour essayer de la voir ».
Mais est-ce que vous, les filles, ça vous excite de voir deux mecs s'embrasser ?
C'est une bonne question, ça, Joseph. Céline ?
J'entends certaines femmes qui me disent qu'elles préfèrent même regarder du porno gay plutôt que du porno hétéro, parce qu'elles elles aiment les hommes, elles aiment le corps des hommes, et ça peut les exciter de voir deux mecs s'embrasser. Moi, je suis pas là pour parler au nom des autres. Et puis, c'est toujours très difficile, finalement, de connaître vraiment l'influence du porno sur la sexualité des gens, parce que c'est une boucle qui se nourrit d'elle-même. C'est-à-dire que le porno est une réponse à la demande des gens et forcément, à force de produire, et ben, il crée aussi
une
influence, une nouvelle norme qui devient un modèle et où effectivement, ben, d'ailleurs, quand on est actrice porno, c'est très très rare de ne pas faire des scènes entre filles. C'est quasiment acquis finalement. Je pense que c'est surtout un tabou pour les hommes d'admettre. Alors déjà, en plus, il y a une confusion. C'est-à-dire qu'on fait une confusion entre le plaisir de la pénétration anale ou de la stimulation avec vraiment le désir homosexuel. Mmh. Et certains hommes se refusent même à explorer cette zone-là. Et pourtant, ils savent que ça peut vraiment leur procurer énormément de plaisir, que leur point G, entre guillemets, est là. Mais ils ont tellement peur d'être jugés et d'être assimilés qu'ils s'interdisent ça. Il y a aussi cette croyance qu'être homosexuel, c'est forcément être passif, c'est forcément être soumis, c'est forcément perdre sa virilité. Enfin, c'est quand même dingue, quand même. Donc voilà, il y a une confusion sur tout ça qui fait qu'il demeure un tabou. Et même, d'ailleurs, au sein du porno, il y a encore une gêne par rapport aux acteurs qui sont bisexuels. Et pour certains vont le cacher.
Enfin, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu, en tout cas, de porno ou des mecs dans des relations hétéro ou même bisexuelles avec les femmes. Avec des contacts avec les mecs, quoi.
Ils vont la voir dans leur vie privée pour certains. Ouais. D'autres vont tourner à la fois dans des productions gays et parfois dans des productions hétéro, mais c'est pas toujours bien perçu. Et certaines actrices refusent d'ailleurs de tourner avec certains acteurs qui ont cette bisexualité assumée. Donc il y a toujours quand même un regard. Il y a toujours on regarde de travers le mec qui est bi, et la fille, pour le coup, c'est glorifié parce que ça veut dire qu'elle est ouverte d'esprit. Il y a beaucoup d'actrices qui ne sont pas bi et qui font des scènes avec des filles.
Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a une demande ? Est-ce que des mecs aimeraient bien voir des situations comme ça où c'est no way, quoi, finalement ? Et que c'est normal que le porno n'en propose pas parce que finalement ça ne plairait pas du tout ?
Il y en a quand même. Enfin, je pense en ce moment, il y a de tout dans le porno. Moi-même, j'ai tourné une scène avec un bi et un acteur gay. C'était une super expérience d'ailleurs. Mais forcément, ça réduit le public. C'est plus une niche, on va dire. Mais heureusement, tout existe. En revanche, c'est toujours une question. De toute manière, le porno, c'est un modèle économique. Si demain, tout le monde se met à regarder, à être demandeur de ce type de scène, ça va changer la production et ça va aussi avoir une influence sur.
C'est un business, ils sont pragmatiques. Donc, forcément.
Donc, il se peut très bien que demain, ça soit absolument quelque chose de branché que d'être bisexuel pour un mec.
Et je trouve que ce serait cool. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
En fait, si on pense business, c'est presque logique parce que c'est majoritairement des mecs qui regardent des films porno. Tu vas avoir donc les mecs. Il y en a certains qui vont être bisexuels, qui c'est pas forcément assumé, ou en tout cas une attirance bisexuelle qui n'est pas assumée. En revanche, très excités par la bisexualité féminine, donc du coup on produit des films de bisexualité féminine. Et de l'autre côté, en fait, même s'il y a des femmes qui aiment les scènes gays, elle reste de niche, et elle reste de niche à regarder du porno. Donc en fait, forcément, on a plus une vision...
Alors je pense que même au-delà du regard de la femme, c'est plus la consommation. C'est-à-dire qu'une fille ne va jamais acheter son porno là où il y a des mecs, et en particulier certains types de populations plutôt âgées, qui vont encore avoir ce réflexe d'achat du porno. Et c'est eux qui financent le porno aujourd'hui, donc c'est majoritairement des mecs. Aujourd'hui, on dit les stats, c'est à peu près 70% d'hommes et 30% de femmes qui regardent du porno, 95% d'hommes qui financent le porno, 5% de femmes. Et c'est ça la problématique. C'est qu'on a un porno qui est financé quand même majoritairement par des hommes. Ça va être difficile d'avoir une production qui satisfasse l'envie ou le désir féminin quand on ne met pas de billes, on ne met pas d'argent dedans, quoi. C'est ça qui est un peu complexe aussi.
Il y a Photogirl qui est d'accord avec toi, qui dit qu'effectivement, moi, le porno, ça ne m'intéresse pas trop, mais je bats plutôt les pornos gays avec deux mecs. Ça me branche vraiment et ça m'excite beaucoup. Ça m'excite beaucoup. On a aussi des témoignages qui parlent de... deux mecs qui s'embrassent, là les témoignages de garçons, ça m'intéresse pas trop, mais par contre, sucer quelqu'un, trop de ouf. Donc il y a un rapport phallique aussi qu'il faut pas nier, on le voit souvent, notamment sur Wild dans les descriptions, où les gens se disent bi, parce qu'il y a aussi des gens bi sur Wild, ou en tout cas qui sont curieux de ça, et qui, une relation entre deux mecs, pas forcément, mais par contre, sucer un gars, ça m'intéresse un petit peu. Est-ce que t'as déjà... eu ces retours-là, toi, Florent ?
Ouais, le mec qui va sucer un autre mec avec sa femme. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de mecs qui ont ce trip-là, que je trouve assez chouette, assez cool, assez curieux. Mais il faut une curiosité. Et c'est vrai que le libertinage, parfois, est très... surtout dans les boîtes échangistes, où vraiment la norme, c'est l'échangisme. Tu as ce premier contact qui va se faire, en effet, par la femme. Par défaut, c'est par la femme.
Et c'est connecteur.
Et alors, au-delà de tout ce qu'on disait de la bisexualité, ça serait naturel. Je pense que là, ça se fait même pour protéger quelque part l'ego de l'homme. C'est la femme qui va faire la première approche sur l'autre femme. C'est pas le mec de l'autre. Du coup, les égos sont un petit peu protégés. Et je pense qu'il y a ça aussi qui est important dans le libertinage, que tu n'as pas forcément dans le porno. Mais voilà.
T'as déjà eu envie, toi, de relations bi-Joseph ? J'ai déjà posé la question, mais pour ceux qui nous découvrent, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent pour la première fois ce soir et qui kiffent et qui trouvent ça extrêmement intéressant.
Eh ben, c'est parfait,
je fais
c'est
que super. Relayer ce qui se dit.
En tout cas, je dirais, pour résumer, d'après ce qu'on entend autour de la table, que la bisexualité chez un homme attaquerait sa virilité, alors que la bisexualité chez une femme n'atteint pas sa féminité. Et c'est bien la différence, enfin, dans la perception. Ce que je veux dire.
Un homme la femme, elle n'a plus rien à perdre.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Une femme qui est bi, c'est très féminin. Un homme qui est bi, quelque part, il perd une partie de sa virilité la façon dont c'est perçu. Donc, c'est là-dedans que le truc se fait. Après, moi, perso, j'ai jamais eu d'envie homosexuelle, non.
Et quand bien même il y aurait une perte de virilité.
Est-ce que t'es triste un peu, Benjamin, par rapport à ce qui vient de se dire ?
Bah écoute, ouais, Joseph, ça fait très longtemps que je le connais et je suis un petit peu.
Voilà, bah quoi. Un peu chafouin là.
Oui, non mais.
Non mais ça se voyait.
Non mais. T'inquiète pas, je jouerai quand même avec ta chatte parce que t'as une chatte en fait.
Eh, doucement, Joseph. Doucement, Joseph. Dis pas des choses comme ça.
Non mais je sais que c'est un secret, mais bon.
Non, mais bon, voilà, moi, j'aimerais bien qu'on en parle plus souvent et que... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change, en tout cas au niveau des mecs ? Je lance pas un appel, hein, mais qu'est-ce qui permettrait, au niveau de la société, que la bisexualité masculine soit plus acceptée et soit normale, quoi.
Non, mais c'est pas... Elle est en train. C'est-à-dire que les statistiques sont claires. Il y a de plus en plus de jeunes qui se revendiquent bisexuels, homosexuels, pansexuels, je ne sais quoi. On est en train de faire, la génération Y, en train de faire sauter clairement les étiquettes. Doucement, mais on est en train de le faire.
C'est pas un petit milieu
C'est une histoire de classe sociale, quand même. Je pense que les classes populaires, malheureusement, à ce niveau-là, c'est un déclin, plutôt. Pendant que les classes moyennes un peu supérieures, au contraire... évolue façon romantique.
Tu penses que c'est lié à ça, toi ?
Ouais. Ah bah, les classes populaires, c'est pas du tout, on n'y est pas du tout. C'est même pire qu'il y a 20 ans, je pense, personnellement.
Tu penses que ça recule ?
Ouais, dans les milieux populaires, ça recule carrément. Franchement, je pense.
En tout cas, selon les stats à l'échelle nationale, t'as de plus en plus de personnes qui se revendiquent ou qui s'identifient comme bisexuelles. Et c'est différent aussi l'identité bisexuelle de la pratique bisexuelle. C'est-à-dire, par exemple, une nana peut embrasser une autre nana, elle va pas forcément dire « je suis bisexuelle ». Donc il y a de plus en plus de gens qui sont, ce qu'on va dire, fluides sexuellement, qui peuvent se permettre de plus en plus de choses. Donc on est déjà dans une belle évolution.
Bah, tu vois, il y a Au Plaisir 277 qui dit « j'avoue que je suis pas bi, mais me faire sucer par un couple, c'est une chose qui me tente ». Voilà, donc
voilà, après c'est surtout une question de mise en scène parce que c'est très cérébral tout ça.
C'est donc, ça, mais complètement.
Il y en a qui vont dire bah non, je suis pas bi, mais effectivement, dans tel contexte, si je suis en confiance, que j'ai un bon feeling, que j'ai aussi, je ressens une forte complicité avec ma partenaire et que voilà, on rencontre la personne avec qui ça, on pense que c'est le bon moment, c'est aussi comme ça que ça peut se faire. Et d'ailleurs, la même chose pour le libertinage d'ailleurs. Certaines personnes ne sont pas prêtes à se dire libertin, mais ils fantasment quelque part sur la rencontre qui va pouvoir les mettre en confiance et où ils vont pouvoir lâcher prise. Donc c'est pas juste une histoire de j'aime le sexe, tel sexe ou tel type de personne. C'est heureusement, c'est une question aussi de rencontre humaine en fait, où vraiment on va avoir un truc qui fait que justement ça dépasse le sexe. C'est-à-dire qu'on est vraiment attiré par la personne pour ce qu'elle est et pas juste pour son corps.
Il n'y a pas des grosses frontières, c'est une situation aussi qui crée l'envie.
Après,
quoi.
C'est presque du sentiment amoureux aussi pour certaines personnes. Hein.
Bien sûr, ouais.
C'est-à-dire qu'on peut être amoureux du corps de... Enfin, voilà, moi, je suis amoureuse du corps des femmes, mais j'ai eu qu'une seule fois un coup de cœur pour une femme. C'est arrivé qu'une seule fois, par exemple. Donc, en tant qu'actrice porno, faire des scènes lesbiennes, c'était très facile parce que j'avais ce plaisir d'explorer le corps féminin. Mais finalement, je me suis sentie vraiment bisexuelle peut-être qu'une ou deux fois dans ma vie.
Mais tu vois, ça, les mecs, ils le disent pas. Et, la beauté esthétique d'un homme, Joseph, c'est très peu évoqué du côté des mecs, même entre potes.
Mais
tu vois.
Mais faut dire que même dans la beauté esthétique, elle est pas du tout mise en avant dans notre société actuelle. Tu prends l'époque grecque ou quoi, où ils faisaient des statues, où la beauté masculine était un truc très prégnant dans l'art. Évidemment, moi, je regarde une statue grecque, je fais « Ouais, c'est beau, un corps d'homme. Mmh. » Mais aujourd'hui, les attributs qui séduisent chez les hommes, c'est pas tant la plastique que des attributs sociaux, en fait, qui sont vachement importants, quoi.
Entre sportifs, moi, j'ai pas mal de potes sportifs, et pour le coup, je suis étonnée de les voir se faire beaucoup de compliments sur leur physique.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Parce qu'il y a la reconnaissance du travail aussi, mais ils sont, voilà, j'ai des potes qui vraiment vont se dire oh, t'es trop beau, et ça fait plaisir en fait de voir cette tendresse et puis de voir des hommes qui s'autorisent à se faire des compliments sans que ça soit autre chose.
Interprété. Enfin,
c'est vrai qu'on n'est pas toutes les femmes dans cette posture de complimenter l'homme qu'on a face à nous, notre copain, on ne nous a pas forcément appris... à le décrire ce corps et
mais très peu en fait maintenant que tu le dis j'ai l'impression que c'est plus les mecs qui vont complimenter le corps de ils reçoivent très peu les gars. Alors peut-être parce que Joseph et moi on est tous les deux un peu vilains.
Moi si on me complimente sur mon corps quand je suis tout nu et on dirait que je viens de sortir de la forêt
t'es bourré toi.
Ouais, la plupart du temps je fais non mais t'es pas obligé.
Abstiens-toi.
Passons à autre chose. Dis-moi que je suis drôle. Dis-moi que j'ai de l'esprit. Dis-moi que je suis drôle. Mais alors, par contre, le physique, là, non, on va laisser ça tranquille. c'est du mensonge.
Vous complimentez les mecs, vous ?
Ouais. Mais tu sais, j'écris un livre là-dessus.
Non, mais je sais bien.
J'incite les filles à complimenter les garçons parce qu'elles le font pas assez. Donc, et il y a plein de choses dans la communauté gay sur les codes esthétiques qu'il faut aller fouiner, puiser et aller chercher à son mec. Ouais. Mais le valoriser sur le physique, ouais, c'est un truc que je fais.
Ouais, vous êtes, Céline et Tatiana, vous êtes à complimenter, ouais.
Ouais, moi j'ai toujours complimenté même mes potes. Quand un jour je les vois, je les trouve beaux, je leur dis quoi. Je dis, t'es devenu canon, toi, en ce moment.
T'es devenu canon.
Ouais, genre, t'étais un peu moins bien avant, et puis là, je te trouve canon. C'est bien, tu t'embellis.
Il y en a que j'engage presque. J'ai dit, putain, mais on est potes, arrête. Calme-toi, quoi. Il y en a qui m'énervent.
C'est beau, quoi.
Il y en a qui sont un peu trop beaux gosses, et je finis par leur dire, mais calme-toi, c'est bon, là, j'ai pas envie.
Redescends un peu, là, t'es trop beau.
Un peu trop beau à mon goût, là.
Allez, je te paye un menu Big Mac.
Ça me fait plaisir, c'est pour moi.
Non, mais après, il y a une chose qui est sûre, c'est que les femmes, on est habituées aussi à se comparer entre femmes, à voir des femmes tout le temps dans les pubs, machin. Donc, à tout le temps dire, même que tu vas acheter de la lingerie ou n'importe quoi, y avoir une nana un peu canon qui met en valeur ce vêtement, etc. Donc, toi, tu te demandes pour toi, tu te dis, est-ce que je la trouve belle? Parce que si je la trouve belle avec, peut-être que je vais me trouver belle avec. Donc, t'es déjà dans cette démarche qui est un peu, pourtant, les mecs, il y a aussi des fringues, mais. C'est tellement plus féminin ce truc de tout le temps nous dire voilà ça c'est une nana canon les mannequins elles sont comme si les
c'est
et en fait on est
quoi,
habitué en fait à regarder les femmes en fait tout simplement donc du coup ça donne l'impression qu'on est naturellement bisexuel.
Ouais, les canons de beauté sont féminins
Ils sont féminins et on a l'habitude de nous demander est-ce que tu la trouves belle machin même dans les magazines de presse féminins moi je sais qu'à un moment donné je me disais mais en fait il y a pas un mec dans ces magazines et je me suis rendu compte que je passais mon temps à regarder des meufs et qui sont dans des positions lascives mais pour des magazines, pour des femmes.
Du coup, ça conditionne forcément.
Bah, fait comme moi, j'achète des magazines masculins.
Voilà.
Moi, j'achète Karate et Bushido. Il n'y a que des beaux mecs.
Voilà.
Ben voilà, astuce. Ben ça, c'est une bonne astuce. Il y a Zed de Gangbang Hard qui voulait venir dans cette émission parce qu'il t'apprécie beaucoup.
Très joli, non ?
Oui, tout en douceur. Il est organisateur de soirée. Il est adorable.
C'est très bien. Je le congratule.
Et il fait beaucoup de pluralité. Et donc, du coup, il a l'habitude de voir les fantasmes des uns et des autres, parce qu'il réalise les fantasmes des gens. Et dit un des fantasmes féminins les plus répandus est un trio avec deux hommes bi.
Ah ouais,
mais ouais, mais carrément. En même temps, oui.
Deux, trois, quatre.
Ouais. Enfin, en tant qu'ils sont bi, c'est cool.
Bah ouais.
Qu'est-ce qui plaît ? C'est parce que c'est différent ou parce que la situation est visuellement, c'est cool ? C'est parce que c'est rare que c'est excitant et donc du coup ça reste dehors du fantasme parce que pour le réaliser c'est un peu chaud.
T'es pas en compétition avec deux zombies en fait. Avec une autre femme t'es en compétition. Ouais. T'es pas en compétition avec deux mecs. Il y a ça aussi qui joue.
Ouais et puis c'est aussi peut-être t'apprends des choses.
Bah ouais ce sont les bah oui.
Puis
bah
c'est
oui.
un peu vulnérable. Enfin c'est assez intéressant. Enfin tu vois.
Et toi qui fais des.
Ça c'est une croyance de croire qu'ils sont vulnérables.
Moi non mais je trouve non mais vulnérable du fait de ce qu'on a dit c'est-à-dire que finalement. Pour des hommes, se dire bi, il y a un côté dévirilisant. Donc je pense que ça en rend certains vulnérables, mais qu'en fait ils sont pas vraiment vulnérables. Mais il y a un côté, il faut que je fasse tomber ma barrière d'hommes qui n'aiment pas les autres hommes. Et si ça arrive alors que t'avais pas conscience, soi-disant, d'être un peu bisexuel, je trouve qu'il y a une forme de vulnérabilité qui peut être intéressante.
Ouais, c'est bien de ne plus être le centre d'intérêt et c'est beau, c'est sexy qui dit ça dans l'arôme. Bah, tu devrais faire un tuto trio bi masculin.
Ouais. Voilà. Moi, c'est vrai.
Je sais pas si ça passerait sur YouTube parce que Ma Vie de Ninja, c'est ta chaîne YouTube.
Non, puis quand je vois que ma vidéo de prévention a été.
Tu t'es fait kicker.
Lâchement dénoncée, qu'elle maintenant elle est interdite au moins de 18 alors que c'est une vidéo de prévention pour les ados, c'est mal barré.
Raconte parce que ça, c'est récent en plus.
En fait, il y a quelques mois, j'ai tourné une vidéo où je m'adresse. Bon, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout pour un public jeune où je raconte la différence entre porno et réalité. Ouais. Il s'agit pas du tout de casser le porno parce que c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, mais juste de donner quelques pistes pour prendre du recul par rapport aux images qu'on peut voir, parce qu'on oublie que c'est un show et que quelle que soit la qualité de la vidéo, bah ça reste quand même quelque chose qui
est
un minimum mis en scène, et malheureusement ça peut créer parfois des complexes, des angoisses les gens vont tout prendre au premier degré, et donc j'ai juste fait cette vidéo pour dire je vous explique clairement que quand on tourne une scène par exemple, il se passe des choses entre action et coupé, et que la fille parfois elle a besoin bien souvent d'ailleurs de se préparer, elle a une interaction avec l'acteur, ils ont besoin de s'embrasser, d'avoir des préliminaires, on peut avoir besoin de faire des pauses, qu'après avoir fait une scène où, par exemple, peut-être un peu violente, où il va lui tirer les cheveux, au moment où on coupe la caméra, l'acteur va lui demander si elle a besoin de quelque chose, si elle veut boire de l'eau, il peut y avoir beaucoup de tendresse sur un tournage, mais on ne le montre pas, parce que nous, on est dans une mise en scène qui est là pour faire fantasmer, et on est dans la caricature et dans la surenchère. Et donc, dans cette vidéo, je parle un peu de tout ça et puis j'explique aussi pourquoi les mecs ont des gabarits spectaculaires. C'est pour des raisons purement techniques. On utilise un grand angle pour justement grossir toutes les dimensions parce que ça participe aussi à l'excitation. Parce qu'il faut voir, il faut tout voir. Et malheureusement, cette transformation de l'image, on finit par la prendre au premier degré et en faire sa référence. Et ça peut créer parfois des complexes. Et cette vidéo, donc, qui était destinée justement à un public qui découvre aussi la sexualité, vient d'être dénoncée par quelqu'un pour être désormais uniquement dédiée aux plus de 18 ans.
C'est moche. Il n'y avait rien d'explicite dans ta vidéo.
Non, je ne fais que parler. Et encore, YouTube me dit, comme c'est de la prévention, on la retire pas.
Merci donc, YouTube, c'est sympa, disons qu'ils sont chouettes. Voilà. Hein.
Mais le mot porno, parfois, il reste encore, ça reste en soi tabou, et c'est-à-dire qu'en fait, il est plus acceptable, et c'est un peu le sujet de mon bouquin, il est plus acceptable de parler de pornographie et plus largement de sexualité à travers les déviances, à travers la souffrance, à travers ce qui ne va pas, parce que c'est rassurant quelque part. Mais dès lors qu'on en parle à travers le plaisir, l'épanouissement, et si en plus on parle de pornographie, donc d'une industrie où il y a de l'argent en jeu, où utiliser son corps est un métier, là ça devient complètement immoral, et donc il n'est pas acceptable de dire qu'on peut le vivre, en vivre bien en fait. Ça c'est trop dérangeant, parce que c'est perçu comme de l'incitation.
Et toi t'es arrivé en sortant ton livre, il y a quelques mois, en disant tout n'est pas cool, mais j'ai aimé quoi.
En fait, et j'ai aimé aussi ce qui n'était pas cool. Ça veut pas dire être masochiste, ça veut juste dire c'était une expérience que j'ai acceptée avec ses bons et ses mauvais côtés, mais c'est un choix. Ce choix, il englobe tout ça, il englobe aussi les erreurs, les moments un peu difficiles, et en même temps il y a eu tellement de moments agréables et des moments de plaisir, de rire, parce que le plaisir c'est pas juste prendre son pied sexuellement, c'est de faire des rencontres, de voyager, d'être dans des situations toujours différentes, d'expérimenter. Donc ce plaisir, il va bien au-delà du côté sexuel, et les gens ne voient que le cul en fait.
Comme le porno, comme le porno, c'est du cinéma.
C'est pas que du cul.
Et quand on est actrice, c'est un métier quoi.
J'en ai marre. Je fais mon coup de gueule ce soir. Non mais ça fait chier, vraiment.
Bien sûr.
Puisque vous m'avez dit que je pouvais parler comme je voulais aujourd'hui, donc
je
tape du poing.
C'est pas que du cul, c'est aussi beaucoup de bites et beaucoup de couilles.
C'est ça. Non mais le pire, c'est que j'ai fait beaucoup de médias mainstream et soi-disant très sérieux, et j'étais ravie d'être invitée, et je trouve que c'est très bon signe justement d'avoir la parole, donc je ne vais pas m'en plaindre, c'est très cool. Mais enfin quand même, les questions tournent toujours autour de « mais alors comment vous êtes tombée là-dedans ? Mais alors vous êtes sûre que vous aviez du plaisir ?»
Ma pauvre.
Et dernièrement, on me pose la question « alors les conditions de travail n'étaient pas trop infamantes ?» Mais, non quoi, Et je dis, mais en fait, c'est hyper pervers comme question. C'est qu'on insinue déjà qu'on est dans l'esclavagisme.
Bah, tu sais, moi, je faisais un parallèle. Je regardais la télé, parce que je regarde la télé des fois. Et à chaque fois que j'ai arrêté. Mais très, très peu. Et ça m'a confirmé que pourquoi je ne regardais plus. À chaque fois qu'il traite, par exemple, le jeu vidéo, par exemple. Le jeu vidéo, dès qu'il est traité.
C'est toujours à travers la télé.
L'addiction, les cadences infernales. Il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps de Rockstar. Les cadences infernales de bouclage, tout est négatif. Alors que c'est l'industrie culturelle qui rapporte le plus d'argent en France depuis des années. Des millions de personnes jouent, c'est une influence considérable. Et à chaque fois, c'est par le prisme du « ah merde, addiction, pas bien, etc. » Et le porn, c'est aussi ça, tout le temps. Et du coup, toi, quand tu allais voir ton éditeur Fayard, il a kiffé tout de suite ton côté positif de ton bouquin.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je leur ai directement envoyé le texte d'ouverture du livre qui raconte ma toute première scène, donc qui est quand même une scène de double pénétration à 21 ans. Et c'était une très belle expérience. Et ils ont tout de suite accroché en disant « Oh, merci, ça fait du bien de lire quelque chose qui soit... » Je ne sais plus s'ils ont utilisé le mot « rafraîchissant », mais c'est quelque chose de très proche.
Est-ce qu'une double pénée peut être rafraîchissante?
Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de sincérité là-dedans et mon discours n'a jamais été de militer pour ça. Et quand je parle de double pénétration, il n'est pas question de dire « faites tous comme moi ». C'est juste de dire « bah voilà, il est possible de vivre comme ça ». J'en ai vécu d'ailleurs qui pouvaient être parfois ennuyeuses. On peut s'ennuyer en double pénétration. On peut s'ennuyer dans une orgie. On peut trouver une routine dans l'extrême. Mais on peut aussi avoir des frissons juste dans un baiser.
Petite papouille dorsale.
Et voilà. Tout est une question de perception, c'est ça le plus important. Et la perception, elle dépend aussi de ce qu'on vient chercher. Ouais. Et c'est valable aussi dans une relation amoureuse ou dans une soirée libertine. Qu'est-ce qu'on va chercher au moment où on y va avec son partenaire ou même seul? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut juste, en gros, baiser de manière hygiénique? Est-ce qu'on vient juste
se vider, se fuir
soi-même parce qu'on est triste et qu'on a besoin de s'épuiser dans quelque chose? Ou est-ce qu'on a vraiment envie de partager quelque chose et de se dire, ben moi là j'ai envie, même si c'est dans un contexte qui peut paraître superficiel, j'ai envie de trouver quelque chose de réel. Et en fait, pour le trouver, il faut déjà être prêt à le donner. Et c'est pour ça que même dans le porno, même derrière le côté superficiel et mécanique, on peut vraiment créer des choses qui sont très belles. Mais ça vient de soi en fait.
Et ce qui a plu aussi, je pense, c'est que t'en faisais pas du prosélytisme dans ta manière d'en parler dans ton bouquin. C'est que t'étais positive, mais tu disais pas c'est pareil pour tout le monde, etc. C'est ton expérience à toi, ton regard à toi qui est pas biaisé et qui est authentique. C'est ça aussi qui a plu.
Oui, parce que ce qui m'énerve, c'est les gens qui parlent au nom des autres. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des personnes effectivement qui ont tendance à être. C'est le problème du militantisme, c'est qu'on a tendance à généraliser et à politiser. Pour moi, justement, ce qui est dangereux, c'est de généraliser, de dire « toutes les filles le vivent comme ça ». Et en fait, au moment où on dit « elles sont toutes comme ça, elles sont toutes esclaves » ou « ce sont toutes des nymphomanes ou des grosses chaudasses », je suis désolée, pour moi, c'est ça le sexisme. C'est de nier l'individualité, de nier la perception et la notion de choix. Et c'est vrai que j'ai vécu des scènes avec beaucoup de plaisir, mais peut-être qu'au même moment, sur le tournage, il y avait une fille qui, elle, en souffrait, mais... Tout dépend en fait de ce qu'il a amené sur ce plateau de tournage. Et il y a des acteurs. Si je parle de Rocco Siffredi dans mon livre, c'est parce qu'en fait, je n'ai eu que des bonnes. J'ai eu vraiment un très bon souvenir de cet homme qui s'est toujours très bien comporté avec moi. Et à côté de ça, peut-être qu'il y a eu des scènes qui se sont mal passées avec lui. Mais moi, j'ai envie de dire, vous savez quoi, ça s'est bien passé en fait. Donc ça m'appartient. Mais il n'y a pas d'histoire de. Ont tort ou raison. C'est juste une question de manière de vivre les choses.
En fonction de son point de vue, de son vécu, de son histoire, etc. Donc, bien sûr. Flore, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Moi, j'aime bien. C'est hyper intéressant.
Non, je trouve ça hyper intéressant, surtout qu'en ce moment, il y a le livre qui vient de sortir, je pense que tu en as entendu parler, de Robin D'Angelo sur le porno amateur. Je pense qu'il y a aussi peut-être deux pornos, et c'est peut-être plusieurs pornos. Tu as des pornos féministes où, évidemment, les règles éthiques sont très, très bien respectées. Du porno amateur où peut-être parfois... peut y avoir des choses qui sont plus limites, un porno qui va être produit par Dorcel où c'est toujours hyper carré, bien cadré. Donc c'est vrai qu'il y a différents types peut-être de production de porno, différents types de conditions, et que c'est bien aussi de le rappeler pour nuancer.
Oui, c'est-à-dire que quand on se lance dans ce type de métier, au bout d'un moment, il faut aussi se renseigner et voir où on va. C'est-à-dire que moi, ce qui me choque un peu, c'est que dernièrement, on me contacte pour réagir sur le non-respect du code du travail dans le porno amateur. J'ai dit, mais vous écoutez ce que vous me dites là, déjà, vous me parlez de porno amateur, de code du travail. Si c'est amateur, c'est pas professionnel.
Compte ta question, mon garçon.
Essayez d'être con, juste. Donc, au bout d'un moment, si moi je réponds à une petite annonce demain dans le journal ou sur le web, où le mec qui dit, ouais, je vais tourner un gangbang dans ma cave, est-ce que t'es intéressé? Je sais payer 75 euros. Non, mais faut pas se plaindre ensuite que ça peut mal tourner. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a les plans cul. Et d'ailleurs, même dans les plans cul, il faut être aussi... il faut vérifier à qui on a affaire, parce que ça peut aussi mal tourner dans le milieu libertin. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui peuvent témoigner en disant, bah, nous, on est allés dans une soirée libertine, on a affaire à des gens qui étaient abusifs, qui avaient envie de participer, on n'en avait pas envie. L'abus est partout et dans tous les milieux professionnels. Donc déjà, au bout d'un moment, dès le départ, il faut aussi savoir où on va, fixer ses limites et être intransigeant. Après, si on ne sait pas dire non et si on ne sait pas ce qu'on veut, il y a de fortes chances qu'on se retrouve dans une situation où malheureusement on va tomber sur des gens qui risquent d'en profiter. Mais même dans le milieu professionnel, il peut effectivement avoir des filles ou des mecs aussi, parce qu'on parle jamais des mecs. Les femmes sont toujours des victimes. Mais c'est très dur d'être ardeur. C'est super dur d'être ardeur.
C'est moins bien payé aussi.
Ils sont moins bien payés. Ils ont une pression de dingue. On veut pas voir leur gueule dans les films.
Sont des faire valoir les acteurs porno.
C'est des bites, en fait.
Ouais. Ils ont une pression par rapport à la performance. C'est un métier qui est difficile. Et si on n'est pas prêt physiquement, psychologiquement à faire ce boulot, faut pas le faire, parce que là, on va droit dans le mur. C'est comme si moi je dis demain, je sais pas, je vais faire la compète de boxe et je vais sur le ring, j'ai pas le mental, j'ai pas le corps, l'entraînement pour ça, mais je vais me faire massacrer. Le porno, c'est un peu du sport de haut niveau.
Alors il y a Décadence qui dit, il y a un monde entre le porno que tu faisais toi Céline et le porno amateur.
J'ai pas voulu faire d'amateur. C'est une question de choix.
T'as jamais fait d'amateur, toi?
Non, je voulais pas. Ouais. Parce que je me suis dit, si je fais du porno, je vais le faire dans des bonnes conditions. Donc, je continue mes plans cul dans ma vie privée, comme j'en faisais déjà. Soit je décide de me lancer dedans, mais je veux que ça soit bien cadré
nickel,
avec un contrat et tout ça. Après, ça m'a pas empêché de rencontrer des gens parfois qui étaient malhonnêtes et de faire des scènes parfois qui ont un peu déraillé. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut dire stop. Et ça me fait sourire quand les gens me disent « Ouais, mais toi, t'as de la chance, t'as été traitée comme une princesse, t'es devenue une star. » Mais comment on devient une star? On devient une star en faisant sa place et en faisant des choix et en disant « Bah ça, non, ça, je ne fais plus. »
Un temps rigoureux.
En imposant ces conditions. J'ai connu plein de filles qui ont commencé en même temps que moi et qui, c'est aussi dans la négociation des cachets. C'est, on veut bosser à tout prix, donc on casse les tarifs, on bosse au black, on va accepter de tourner avec tel mec alors qu'on sait qu'il n'est pas fiable. Ces filles-là, au bout de 2 ans, elles ne sont plus dans le business. Mais à qui la faute? Donc, c'est, au bout d'un moment, il faut aussi accepter de se dire que c'est un métier et que si on veut être reconnu là-dedans, il faut avoir une attitude professionnelle.
Les gens te kiffent. Dans la Rome, je te jure, vraiment.
Voilà.
Un discours responsabilisateur populaire.
Moi j'ai envie de dire amen, tu vois, Céline. Avant de passer aux questions de Flore, là on va jouer.
Putain, ça fait du bien, merde. Je suis tout en polie dans les interviews, merci quoi.
On va bientôt jouer, Céline. Avant, je dois juste. Il y a Oenologie 31 qui, depuis tout à l'heure, me dit. Il faut que je te passe un message à Oenologie 31 dans la Rome qui te passe le bonjour.
Voilà,
Oenologie 31.
Voilà. Voilà.
Le mec, je l'imagine.
Il n'y a pas Urologie non plus.
Quoi ?
Il n'y a pas Urologie.
Je suis sûr que tu peux trouver Benjamin.
Il passe le bonjour à Joseph, lui. Urologie 72. Voilà.
Oh, écoute, Urologie, ça va. Hein. Bon. Je croyais qu'on devait rester discret.
Je vous file c'est pas un coin-coin, c'est un poulet. Joseph, tiens. Flore.
Non, fallait pas nous donner ça.
Non.
Alors, on va. Allez, faites coin-coin, 2 minutes. Et puis hop.
Pardon. Fallait absolument qu'on le fasse. Peu, hein,
et en fait, c'est le seul truc qu'on ait trouvé, c'est un buzzer. Et Flore va vous poser des questions, faut répondre coin-coin et votre prénom et vous pouvez donner la réponse ensuite.
C'est okay. comme question pour un champion. Céline, voilà, c'est comme question pour un champion, voilà. Mais
okay. Je suis, tout ça.
Okay. Tu es Joseph.
C'est stressant.
Voilà.
Donc tout est autour de la thématique du...
Porno.
Merci.
Je sais rien.
Voilà.
Première question.
Oh merde, je sens que tu as connu toutes les réponses à tous les coups, je vais te dégoûter.
Non, je crois pas.
Ça dépend, on gagne quelque chose ou pas?
Qu'est-ce que tu veux gagner? Alors on va rappeler le truc, les gens peuvent envoyer des mails à...
Oui, Anso, elle est dans la room, voilà, vous faites vos coordonnées, puis Flore
vous
enverra.
Et je vous envoie un petit
magazine Union. Dédicacé, voilà.
Yes, with the rouge à lèvres. Question numéro 1, je suis un terme anglophone utilisé dans le jargon pornographique qui nécessite une relation sexuelle non protégée et qui qualifie, suite à une éjaculation interne, un écoulement de sperme depuis l'orifice d'une personne après le rapport.
Cuckold.
Non. Mais moi, je connais aucun terme
on
du porno.
On peut également le traduire par tarte à la crème.
Cream pie.
Oui,
ah ouais, c'est vrai.
Ah, c'est ça l'onglet.
J'avais des images, moi.
L'onglet cream pie.
J'avais des souvenirs qui défilaient dans ma tête.
Alors, juste comme là, il y a deux semaines, vous étiez extrêmement fort. J'ai quand même augmenté de niveau mes questions.
D'où te vient ce mot?
Tu commençais à me faire rêver, là, dans ta description.
Bah, écoute, c'est quand elle a dit le terme anglais tarte à la crème, j'ai tout de suite traduit cream pie. Voilà. Mais c'est aussi, évidemment, c'est des onglets sur mes sites préférés où j'ai vu cream pie. J'ai jamais cliqué dessus parce que je me suis dit, ça sent le sperme à plein nez, là, les douches de sperme, ça m'intéresse pas.
Non,
mais en fait, ce n'est pas ça.
C'est tout mignon.
D'accord.
Oui, c'est mignon. Ouais.
Okay. C'est quoi ton tag préféré, sinon, dans le porn
Moi, c'est lesbiennes. Hein. Je suis vraiment un. Moi, je suis un beauf. Hein,
l'autoroute du Sud.
L'autoroute du Sud, allez hop. Direction la Calanque, je suis pas original.
Voilà. On roule à 130 et voilà.
C'est la mode, les cream pie. Dites-moi, parce que je ne sais plus.
Pour faire des enfants.
T'as,
oui,
t'as plus fait de mise à jour depuis 6 ans.
Non, ouais, c'est hibernatus en fait.
C'est ça.
Je sais plus ce qui se passe en fait. Les gens me parlent de porno, je sais pas ce qui se passe dans le porno.
Moi,
j'ai jamais regardé
le
porno.
C'est assez excitant, cream pie.
Je préfère vivre le porno plutôt que de le regarder en fait.
C'est quoi ton tag, toi, Tatiana?
Bonne question. Bah, en fait. Bonne question. J'en ai plein.
Ouais, elle essaie
plein de tag,
non,
voilà.
Non, mais non, j'en ai
ouais,
plein en fait.
Je sais pas,
mais je sais pas lequel est mon favori.
Ouais.
Mais il y a lesbienne dedans. Moi, j'aime bien les trucs de meuf.
En tout cas, les gens.
Tu vois le poisson là.
Ouais. Hein? Non, c'est vrai. Lesbienne.
On te laisse réfléchir.
Et toi, Benjamin, est-ce que tu es toujours aussi fan du hashtag berger allemand?
Que répondre. En tout cas, les gens dans la room avaient trouvé un cream pie. Allez, deuxième. En tout cas, vous avez bien respecté le coin-coin. Bien joué.
Vous êtes là.
Bien joué, les filles. Et bien joué, Joseph, surtout.
On n'est pas très
bien joué, Joseph.
Allez, deuxième question, là.
J'ai honte.
Mais ne m'adresse pas non plus.
Je suis un acteur pornographique.
Rocco Siffredi,
le 7 février 1986, qui a commencé 86. Mes premiers tournages
James
à
Dean.
L'âge de 10 ans. Oui.
Ah, James Dean, bah ouais.
Question rapidité, James Dean.
Alors, question rapidité, James Dean, c'est vraiment de l'humour que je supporte
j'adore.
Mal.
Tu m'as dit 86, j'ai pensé
je tiens
un petit
à dire.
Mais...
J'ai pas compris. La
ça, c'est le cynisme total.
C'est parce qu'il était jeune.
Ah. Non, parce que le vrai acteur James Dean est mort en voiture, dans un accident de voiture.
Oui.
Et donc, du coup, Van à tiroir, Joseph, on aime beaucoup.
Non, mais voilà.
Van Ikea.
Ça demande un peu de culture, il y a du fond, c'est tout moi, quoi.
Alors, si je peux me permettre, Céline, presse. Parce que si tu presses, on va mieux entendre le poulet. Troisième question, Flore.
C'est très bizarre cette phrase.
Allez, troisième question. Je suis le nom d'un établissement situé au 14 rue de la Villeneuve à Paris, comptant près de 112 mètres carré.
Quoi?
J'ai ouvert en 1970 et en 1980, non, on comptait... Et fais ton chicken!
Je sais pas, moi, le chicken!
Et on comptait une vingtaine d'établissements de ce type dans tout Paris en 1980. Dirigé par Maurice Laroche depuis 1983, je suis un établissement fait de fauteuils en velours et d'un écran géant. Je suis le dernier cinéma pornographique
de Berlin. Mais il a fermé
genre il y a 10 mois quoi.
Il a fermé. Ouais.
C'est horrible. Hein. J'ai fait une scène dans le Beverly d'ailleurs.
C'est vrai?
Ouais.
Et ben ça va.
Pour Alain Payet.
Ça avait pas l'air terrible. Si.
Ah, moi j'étais trop fan de ce type de lieu. C'était tellement glauque. Mais glauque, glauque, non, mais glauque est un mot positif dans mon vocabulaire, calmez-vous. C'était. Non, j'ai dit familial. Non, c'était convivial.
On était entre nous, on était entre nous.
C'est tellement glauque, c'était familial. J'adore.
Okay, pas popcorn, mais ça, par contre.
Il manque
c'était sympa.
Il manque l'onglet familial à côté de l'onglet cream pie dans le porno. Ouais, non, mais c'est vrai, tu vois. Et puis berger allemand et familial, ça va ensemble, quoi, tu vois. Je veux dire.
Je pense que dans le porno japonais, c'est une trace, ça va être sympa.
Non, mais ça avait tellement de charme. Non mais vraiment, oui, pour de vrai,
c'était glauque, hyper vintage.
Non mais vraiment, c'était hyper vintage, c'était trop mignon. Moi j'aimais beaucoup.
Il y a tellement de mots opposés, c'était mignon, c'était dégueulasse, c'était glauque.
C'est mignon et dégueulasse. Si tu veux me vendre un truc, tu dis c'est mignon et dégueulasse, je prends.
Je viens direct, quoi. Voilà. D'accord. Okay. Quatrième question, Flore.
Alors la quatrième.
Ok, très bien. Super.
La quatrième question, c'est la plus difficile, concentrez-vous.
Ah, merde.
C'est un « je suis un » sigle anglophone composé d'initiales qui est aussi un tag
BBC.
Pornographique.
BBW,
BBC. BBC.
Quoi BBC?
Bah, Big Black Cock.
Bah oui.
Ah oui.
Bah oui.
Big Black Cock, bah oui. BBC.
Bah BBC.
Eh
bah,
ben non, c'est pas ça.
Attends, okay. attends. Céline.
C'est MILF.
Ah non.
Tu connaissais pas BBC?
Non, alors je l'ai découvert, c'est un follower de Twitter qui m'a fait découvrir il n'y a pas longtemps.
Sérieusement ?
Mais moi, je connais pas tout ça, moi.
Attends, moi, je ne connaissais pas non plus.
Attends, je... British Broadcast Corporation, bordel.
J'ai encore une part d'innocence en moi.
D'accord.
Personne ne...
Ah, je savais pas.
Alors, bah, du coup, si, maintenant, je te crois. Je te crois. D'accord,
mais
tu ne connaissais pas BBC.
Je ne suis jamais intéressée à ça.
Très bien. Donc, c'est pas ça.
Donc, c'est pas ça, mais vous avez compris le principe, c'est bien.
C'est un acronyme anglais, donc.
Pour des pratiques de soumission, de domination,
non.
Je renseigne sur la façon dont sont habillés les acteurs dans un show
hétérosexuel.
Non. Ou plus précisément, je renseigne sur lequel d'entre les deux est déshabillé. Littéralement, en français, c'est habit femme, nu homme, je suis le sigle.
Je suis perdu surtout.
Et vous connaissez pas. Sais,
franchement,
Where Men WM.
C'est quoi, c'est SFNM. Vous connaissez pas ça?
Ah ouais, alors là, non, pas du tout.
Closest female, naked male.
Ok.
Bon.
Absolument pas.
C'est quoi un tag pornographique qui dit qu'en fait la femme est habillée et l'homme tout nu, ou ça peut être l'inverse.
C'est mignon, c'est convivial.
Oui, c'est convivial.
J'aime bien.
Ça me rappelle les Noëls en famille.
Je suis pour.
Ça me rappelle la dernière Pâques avec mes cousins.
Sympa. Qui est-ce qui était habillé? Qui est-ce qui était tout nu?
Tu vois, c'est le genre de truc que j'irais chercher.
Attends, parler d'œuf à Pâques, je sais pas ce que tu vas chercher.
Je trouve ça super sexy.
Ouais.
Un mec en costard, par exemple, et une femme entièrement nue sur talon.
Ça peut être ça.
Je trouve ça super classe.
Ouais, c'est vrai.
Très joli.
Ouais,
on aime beaucoup.
Donc ça, c'est du CF... non, c'est du CMNF.
Ah oui, close.
En l'occurrence.
Naked.
Et ben, je rentre chez moi ce soir, je vais...
Voilà.
Et tu vas faire une petite recherche.
Pour la curiosité, tout simplement. Ni plus ni moins.
Non, mais sinon, je reste habillée, tu te vois pas, et puis ça ira.
Est-ce que tu sais que c'est la première question depuis l'histoire des questions où vous n'arrivez pas à répondre?
Et ben, c'est vrai, ça dit donc. C'est vrai.
Parce que et là, je suis un petit peu fière de moi parce que j'ai réussi à vous sécher.
Temps,
alors
que
j'ai des experts de porn et
alors
tout.
Alors que Lana, elle connaît pas BBC, avait, tu vois, mais celui-là.
BBC.
C'est
BBC.
Et bah, si, Louvrette avait trouvé. Voilà, mais les gens aiment beaucoup cette émission. Merci, hein, ça fait très plaisir de vous avoir. Berger allemand en vadrouille volume 5. Ouais, pourquoi pas, c'est mignon aussi.
C'est mignon. C'est le mot passe-partout, mignon. C'est mignon.
C'est cute.
Mignon mais glauque.
C'est kawaii.
Est-ce qu'il y a encore une question, Flore?
Il y en a encore deux. Allez, cinquième question. Histoire. Je suis un film pornographique américain réalisé par
Deep Throat.
Putain.
Hein, t'as dit quoi?
Deep Throat.
Non, c'est Joseph, il y a les gorges profondes.
Ah bah oui, il y avait une chance sur deux pour que ça soit ça.
Ouais. Je l'ai prise.
Bien joué, Gérard Damiano, pardon.
Bah oui.
Est produit en 1972, un des premiers films de ce genre à comprendre des scénarios, développement des personnages et un budget conséquent. Gorge profonde, Deep Throat, les deux étaient acceptés. Dernière question, concentrez-vous.
Bah tu vois, quand on me dit gorge profonde, je pense au Watergate, moi. Je pense pas.
Et tu as raison. Bah, tu as raison. Ouais. Mais faut dire que je crois que l'un est lié à l'autre, profondément, et c'est la même époque, et je pense qu'il y a une théorie du complot liée à ça. Hein. Je pense que voilà, la théorie du complot est arrivée au fond de la gorge d'une manière peu catholique.
Dernière question, Flore.
Allez, je suis une émission de télévision française diffusée depuis 1991. J'ai connu...
Ah bah le journal du Hard.
Oui.
Bah oui.
Facile.
Ah ouais,
facile.
91.
Ouais.
Ah ouais, ouais. Ok.
C'était Philippe Vandel.
Non, Philippe Vandel, Alexandre Devois, Julia Chanel et actuellement Sébastien Thoen.
Tu étais invité.
Diffusé chaque premier.
J'ai fait plusieurs. Ouais.
D'accord.
Pas sur le plateau, mais j'ai été dans les sujets Chanel. Sur le GDH, ouais.
Ça rappelle des souvenirs d'enfance.
Julia Chanel, ah ouais. Ouais. Sinon, ouais. Ah, non, ouais.
Philippe Vandel, surtout. Philippe Vandel. Philippe Vandel, quoi. Bah ouais.
C'est mignon.
C'est moi, adolescent.
C'est convivial.
C'est familial.
Non, mais c'est vrai que c'est familial. C'est le Canal Plus de l'époque, d'avant Internet. C'est le porno d'avant Internet, ça, quand même.
Tu battais ça en famille, c'était vachement bien.
T'enregistrais ça sur VHS et puis t'attendais ton moment pour le clomater tranquille et tout. C'était bien.
Ouais, c'est vrai.
Nostalgie.
Ah, il leur faudrait une bonne guerre aux gens d'aujourd'hui.
Joseph, t'as pas le droit. Joseph, bah, appelle justement Marine Gasque, s'il te plaît. Parce qu'on va
lui faut une bonne guerre ?
Non, parce qu'on va continuer à parler d'histoire. On va enfin savoir la vérité sur Cléopâtre. Est-ce qu'elle a sucé 100 soldats en une nuit ?
Oui. Moi, je veux savoir qui a tué Kennedy.
Et bah, peut-être qu'elle a cette réponse-là.
Ah, bah, je l'appelle.
Peut-être que, très bien. Peut-être que Kennedy s'autosuçait. Enfin, on ne sait pas, des choses comme ça. Sur les grands de ce monde, finalement, parce qu'ils ont tous des secrets. Hein.
Bah oui.
Voilà, tout simplement.
Mais ils ont tous une vie sexuelle. Enfin.
Bah oui.
Bah oui.
Bah ouais, ouais. Ils font des petits trucs chelous, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Joseph galère là, je pense qu'il n'a pas le numéro de téléphone. Mais c'est pas grave. On va continuer à jouer tout à l'heure parce qu'on va enfin savoir si Céline est allergique à l'hélium dans une demi-heure.
Ça guérit la toux.
Alors, non, ça assèche la toux. Donc la gorge, donc à mon avis,
déjà que ça gratte, tu sais.
Ça fait gratte déjà, mais je pense que ça va je pense que tu vas beaucoup tousser à la fin de cette émission. Il y aura un sextoy de l'eau à gagner. N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Danso dans la room pour participer. Elle me montre ses pouces et que ses pouces. Ce n'est pas une métaphore. Elle me montre vraiment ses pouces. Oui, donc Joseph, on a Marine au téléphone. Bonsoir Marine.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien. Et vous?
Eh ben très bien. D'où nous appelles-tu?
De Narbonne.
Eh, c'est un peu l'état indien, Narbonne. Le mec qui raconte ça live. Non mais si, c'est l'état indien, Narbonne. Il fait trop beau à Narbonne, mec. Non mais il y a Joseph qui me regarde comme ça, genre. Mais
quand on parle de la météo, là, non.
Ouais, non, c'est le début de la fin. Ouais.
Non. Alors du coup, Marine, on va parler de cul.
Voilà.
Exactement. Bah, on est là pour ça, je crois, oui.
Bah ouais, raconte-moi l'histoire de la sexualité, c'est tout nouveau et ça va bientôt se concrétiser, dis donc.
Bah oui, apparemment, je suis assez satisfaite, la campagne Ulule marche très bien.
Ouais, ça marche trop bien, mais surtout que vous avez réussi à dépasser l'objectif en moins de 24 heures, c'est ça?
Ah oui, ben c'est ça, exactement, ouais, en 26 heures en fait, en 26 heures on avait les 100%, et là, on a dépassé les 450% et ça se termine.
Il reste plus grand-chose. Bon, du coup, l'essai est concluant. Comment ça se passe quand on réussit ce genre de truc? On est trop content, j'imagine.
Ouais. On est super content. Même si là, bon, bah, maintenant, on se dit qu'il va falloir empaqueter plus de 650 livres. C'était pas prévu. Quand on pensait en vendre peut-être 100 ou 200. Mais c'est chouette. Non, c'est vraiment chouette de pouvoir faire de l'histoire et en même temps parler de cul comme ça. Enfin, c'est lié finalement deux thématiques assez intéressantes. Quoi.
Et l'idée, c'est venu d'où ?
Allô ?
Oui, Marine ?
Marine, l'idée de ce livre, Mêler l'histoire et le sexe, c'est venu d'où ?
Alors, c'est venu d'où ? Ben, en fait, quand je faisais mes études, moi, donc j'ai fait un master histoire du droit. L'idée, c'était pas vraiment de parler de cul, mais j'ai fait un mémoire sur les mœurs dans le couple au 19e siècle. Ah. Et en fait, ben, on découvre un petit peu tout ce qui se passe dans le couple et tout ce qui se passe à côté du couple.
Surtout donc, à côté, moi, ouais.
Et du coup, ça a été voilà une thématique qui moi m'intéressait particulièrement. Et en plus, voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses en liant les deux.
Et ben ça c'est trop canon. Mais c'est vrai que c'est chiant en même temps. Stéphane Bern, le mec qui a fait Métronome aussi, c'est hyper relou hein, quand on y pense. Laurent Deutsch, hyper relou. Donc vous êtes pour créer.
T'es en train de shamer Laurent Deutsch et Stéphane Bern?
Non,
c'est
mais...
bien du don.
Bah ouais, c'est
intéressant, merde. N'importe quoi.
Eh mec, tu prends des risques. Tu prends des risques, tu vas avoir des problèmes.
Il vient de critiquer nos goûts.
Tu vas avoir des problèmes.
Je vais insulter Michel Drucker dans un instant, vous allez voir.
Franck Ferrand.
Je suis pas d'accord.
Non, mais ils sont très bien, Stéphane Bern et Laurent Deutsch.
Ça ne sera pas piqué d'âne.
Laurent Deutsch, il arrêtait d'avoir des. Non, Laurent Deutsch, non. En histoire, c'est pas sérieux.
Non, Stéphane Bern,
peut-être. Parce que Laurent Deutsch, il glisse des petites idées maurrassiennes qu'il peut regarder pour lui.
On aime beaucoup Secret d'Histoire hein, sur France 2, évidemment. On aime beaucoup.
Voilà, merci, ça me fait plaisir. Ce retournement de veste, ça fait du bien.
L'idée aussi, c'était de s'attacher avec une illustratrice pour créer ce bouquin. Ça ne tenait pas tout seul, sans illustration, le livre, Marine ?
Alors, si, ça pouvait tenir. Mais Pauline Roland, l'illustratrice, c'est une amie à moi. Et on a déjà bossé ensemble sur plusieurs articles sur le blog, en fait. Et on a notamment fait... on a écrit l'histoire du clitoris. Et ça avait été un vrai buzz. C'était en 2015. Donc, maintenant, c'est devenu un petit peu à la mode de parler du clitoris. On voit des dessins un peu partout. Donc, tant mieux, c'est très cool. Mais voilà, nous, ça avait vraiment bien marché. On avait fait plus de 500 000 vues en 48 heures. Moi, le blog avait explosé. Enfin, ça avait fait sauter le serveur. Enfin, c'était chouette. Et on s'est dit que si on devait faire un livre ensemble... On le ferait sur l'histoire de la sexualité parce qu'elle, c'est aussi une thématique qui lui plaît beaucoup et qui lui parle, disons.
Et puis ça permet une vraie liberté aussi. Et puis c'est kiffant de dessiner des personnages publics et en même temps de les illustrer dans le cul.
En même temps, parfois il y a la photo qui n'existait pas, donc il faut forcément faire de l'illustration. Quoi.
Exactement. Donc c'est là où Pauline intervient et où elle peut illustrer des choses que certaines personnes ne pourraient jamais imaginer. Voilà, pour des personnages illustres, disons.
Parce qu'on a vu le vœu Claude François.
Oui, Claude François, voilà. Il est exceptionnel.
Donc c'est Claude François, son visage est une vulve et ses cheveux sont blonds.
Oh.
Ouais.
Exactement.
Et on le montre actuellement à l'écran.
Il chante « Le mal-aimé, je suis le mal-aimé ».
Excellent. Mais alors Cléopâtre.
Alors oui, justement. Alors oui, parce
moi,
qu'on
je
a.
Je veux savoir parce qu'au bout d'un moment.
Parce qu'on prête à Cléopâtre l'invention du vibromasseur. Raconte-nous un peu le délire, Marine.
Oui. Alors en fait, voilà, l'idée, c'est de raconter que Cléopâtre a inventé le vibromasseur. Donc dans certains ouvrages, on la représente donc avec un papyrus rempli d'abeilles qu'elle aurait refermé. À quel moment on se fout un papyrus dans la chatte? Il faut arrêter, rempli d'abeilles.
Le mercredi soir, entre 18 et 20h.
Moi, je le fais tous les matins, je me mets un papyrus dans la chatte.
C'est glauque mais convivial, voilà. Toi.
C'est vraiment une légende. L'idée, c'était, enfin, sans rentrer dans les détails, mais l'idée, c'était vraiment de noircir l'image de Cléopâtre, une femme puissante qui pouvait exister à travers sa politique, à travers ses faits et gestes, mais on a voulu la
rabaisser
par rapport à sa sexualité.
Il y a
fait,
ça voilà. Aussi derrière qui est très intéressant.
Elle a choisi le mauvais cheval aussi. Elle a choisi Marc-Antoine. Hein.
Ouais, tous les choix n'étaient pas super stratégiques. Ouais.
Non. Et donc, du coup, ils l'ont pourri derrière parce que Marc-Antoine, il s'est fait. Bon, bah voilà.
Mais c'est pas une raison pour la dénigrer après, Marine.
Voilà. Non, mais c'est ça. Enfin, c'est ce qu'on démontre aussi dans le livre, en fait. On parle de la sexualité. Donc, c'est un terme qui peut être très drôle et très accessible pour tous. Mais à côté de ça, on montre aussi tous les aspects un petit peu sociaux et qu'on peut retrouver à côté.
Du coup, elle a pas su ses 100 mecs. En une nuit.
Allez.
On ne sait pas tout.
Ah, tu vois, elle laisse place. Ouais. Le mystère.
Moi, en tout cas, l'histoire des abeilles, a priori, c'est faux, quoi. C'est parti d'où? C'est parti de choses qu'on a retrouvées sur elle, c'est ça?
Alors, ça peut être parti de différentes choses. Les quelques représentations qu'on a de Cléopâtre, en fait. Soit elle a des tubes énormes dans le cul, la chatte. C'est vraiment des représentations qu'on a d'elle.
On découvre des choses.
Et donc, au fur et à mesure, au fil du temps, plusieurs conclusions ont été tirées, mais manifestement, elles n'étaient pas toutes bonnes.
Des tubes.
Dans le cul.
Des tubes, quoi. Hop.
C'est ça.
Allez, amène un tube.
C'est de la diffamation, quoi, quelque part.
Bon, au contraire, je trouve que ça crée la légende aussi, hein. Ça fait fantasmer.
Oui, voilà. Après, on sait que l'histoire a été écrite par les hommes et pour les servir aussi. Et du coup, c'était vraiment une manière de montrer que... De dénigrer, en fait, cette femme puissante. Quoi.
Oui, c'est comme pour la comtesse Bathory, dont on disait que c'était une femme sanguinaire. Et a priori, on aurait, il me semble, créé ces rumeurs pour la condamner et la destituer de sa fortune, en fait.
Il y a énormément de femmes comme ça qui, sur de la diffamation, en fait. Et ça a marché au fil des siècles, parce que souvent, ce genre d'histoire ne prenait pas sur le moment, en fait, parce qu'on se rendait bien compte du ridicule de la situation. Mais avec le temps, on crée des légendes, comme ça.
Et qui s'appelle Rio Kezak.
Et qui s'appelle Rio Kezak.
Moi, c'est pas de bol, j'ai mes films, donc j'ai une preuve. C'est foutu.
Voilà.
Mais tu restes dans la légende pour plein de gens aussi, j'imagine. Donc voilà, même si y a les images.
Et CBD, on peut l'avoir quand, du coup?
Et bientôt, elle va nous le dire, Marine.
Ah, pardon, je vous entends.
Quand
très
est-ce
mal.
Qu'on pourra avoir
Quand est-ce qu'on peut avoir ton livre?
Alors, le livre, on peut le commander sur Ulule jusqu'à jeudi soir. Donc là, il faut vraiment profiter de la campagne Ulule parce qu'il y a des goodies, il y a, des, ben, il y a justement des autocollants avec Clo-Clo le clito qui sont très sympas. Il faut investir maintenant, disons, voilà, avant jeudi soir.
On voudrait pas louper Clo-Clo le clito.
Parce qu'après, il est pas diffusé, il est pas distribué après jeudi soir.
Alors, ben, pour l'instant, j'ai pas trouvé de librairie qui consente à le mettre d'édition. Sur les rayons. Mais on espère que ça se fera.
Peut-être okay. que Claude François Clito choque un petit peu sur les étalages, peut-être, mais c'est un peu triste.
À skip.
Alors moi, je veux savoir, est-ce que la levrette, elle existait au Moyen-Âge? Parce que ça, c'est une question qui est aussi posée.
C'est bizarre, cette question, bien sûr.
Au Moyen-Âge, oui, bien sûr. Bien sûr, il existe de nombreuses représentations où on voit donc deux personnes en levrette. Oui,
c'est
oui.
la base, j'ai envie de dire. C'est un petit peu la base.
Oui, on s'est reproduit. Enfin, Benjamin, tu vois bien qu'on est là aujourd'hui. Comment on fait pour se reproduire enfin.
Il n'y a pas que la levrette.
Mais Benjamin, t'imagines qu'à la Renaissance, tu vois, l'homme découvre l'Amérique, l'Européen découvre l'Amérique et il se dit putain, si je retournais ma meuf pour la baiser. Tu vois, pendant 1000 ans au Moyen-Âge, pouf, on découvre l'Amérique, on se dit hé.
Et là le mec.
Eh ben attends, hé, putain.
Révélation.
Révélation totale, quoi.
Tout s'est voilà, perdu.
C'est le nouveau monde a révélé la levrette, quoi.
Il y a des époques où c'était plus proscrit par, entre autres, justement par l'Église.
Merci Céline.
Ah ouais, alors c'était ouais. proscrit.
Non, mais justement, c'est le Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge qui prenait un retour ouais. aux missionnaires, mais les hommes préhistoriques se prenaient en levrette. Enfin, je veux pas croire l'inverse.
Marine, en écrivant le bouquin, qu'est-ce qui t'a le plus étonné en anecdote que tu pourrais nous livrer ce soir? Un truc qui t'a marqué?
Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? Finalement, on n'a rien inventé, quoi.
C'est ça.
Absolument rien. Et non,
c'est
après.
Les abeilles dans le cul, quoi. Attends.
Enfin, bon, il y a l'internet, mais sinon, à part ça.
Non, moi, ce qui me plaît, c'est les tabous, en fait. Par exemple, toutes les peintures, enfin, dans les grottes, pour la préhistoire, on avait plein de preuves de ce qui se passait avant, mais on a préféré nous parler du croissant fertile et de l'agriculture. Et on nous a jamais parlé, finalement, des scènes comme ça, en levrette ou avec des
animaux. Mais t'avais pas compris ce que voulait vraiment dire le croissant fertile. Le croissant fertile, en fait, c'est comment dire, c'est comme Claude François. C'est... c'est une image.
Donc en fait, Marine, t'es en train de nous dire que dans la grotte de Lascaux, il y avait des dessins un peu obscènes, c'est ça?
Il y avait des dessins zoophiles, même, j'ai entendu. Hein.
Exactement. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça,
le berger allemand.
Tu vois, on a évolué. Oui, enfin, sauf toi. Mais...
dans les grottes de Lascaux, il y a un réalisateur porno allemand. Voilà, exactement. Un plombier de l'époque, hein, parce qu'il y avait des plombiers à l'époque.
Je vois pas que vous avez un problème avec votre stalagmite.
Oh,
on va bien régler ça.
Donc ouais, c'est étonnant ça, les grottes de Lascaux qui parlent un petit peu de Huc.
Ouais, non mais voilà. Non, c'est pas si étonnant, mais disons que les personnes qui étaient chargées donc de diffuser un petit peu tout ce qu'il y avait dans ces grottes, c'était les prêtres de l'époque, donc forcément, ils disaient pas grand-chose, quoi. L'idée, c'était de cacher tout ça.
Très enfin, elle le montrait aux enfants.
Ouais.
Pardon, excusez-moi. Passons à autre chose.
Oh, le blanc.
Putain, c'est horrible.
Le blanc marin, horrible.
J'ai pas compris,
là. Je crois que c'est tout. Alors là, on s'est tous désolidarisés.
C'est clair. On t'a laissé tout seul, là.
J'étais concentrée sur le
vous savez quoi, pas de problème. Laissez-moi tout seul. Continuez à fermer les yeux sur ce problème. Et les choses s'arrangeront toutes seules, hein. Bon, bref.
T'as pas
son
gros bide, mais pas parce que t'as mangé de la pizza avant le début de l'émission. Hein.
C'est, non,
je t'ai jamais
non,
vu prendre
non,
un
non.
bide pareil.
C'est plein.
Un bide cabas. Non,
plein.
C'est la première.
Mais bien
la première.
Sûr que non, plein.
C'est vrai. Et tu sais quoi?
Oui.
Ça te rend plus humain encore.
Et voilà, exactement, tout à fait.
Il y a une belle relation entre vous. Hein. Vous êtes
très,
sûr
très
qu'il y a pas de bisexualité?
Mais bien sûr que si, il y a de la bisexualité.
C'est le roulage de pelle.
On s'est venu, il n'y a pas de. Il n'y a aucun.
On pratique le 69. Dès qu'on en a l'occasion, on fait un petit 69 comme ça. On se sent mieux après, on est moins stressé. Hein.
Ouais.
Hein, que t'es moins stressé après, Benjamin.
Ouais,
à vous.
Tendu, bah oui, en ouais, plus voilà. Avec l'heure d'hiver,
oui,
c'est
tout à fait.
Bah, parce qu'on l'a démasqué. Il sait qu'il peut pas mentir devant moi et Céline. Tu
vois. Bah, non, ça, je suis tout intimidé. Merci beaucoup, Marine, d'avoir été avec nous ce soir. Raconte-moi l'histoire de la sexualité. Il y a encore 3 jours pour participer à la campagne de taux de financement, de crowdfunding sur Ulule.
Exactement.
Les jeux sont faits, mais plus vous récoltez et mieux c'est, et plus vous pourrez faire découvrir votre travail. Et c'est ce que j'allais dire. Ouais, vous pourrez le diffuser et le faire connaître au plus grand nombre. Et puis on vous retrouve partout sur votre blog aussi.
Ouais, c'est ça, sur racontemolhistoire.com, ouais.
Voilà, et nous on se relaiera ça, il y a des articles aussi sur notre blog. Et puis demain vous verrez, si vous nous suivez sur Instagram, il y a justement l'histoire de Cléopâtre qui est illustrée.
De Cléopâtre.
Voilà, on vous diffusera ça demain. Merci beaucoup Marine d'avoir été avec nous ce soir.
Avec plaisir, merci à vous et bonne soirée.
Merci, salut.
Bonne soirée.
Bah voilà, on apprend plein de choses aussi dans cette émission. Ça c'est mieux que Stéphane Bern.
Non.
Mais arrêtez de dire Stéphane Bern, mais il est génial.
On touche pas à Stéphane, quoi. Putain.
Ah d'accord, on n'a pas le droit de toucher Stéphane Bern. D'accord,
non.
Très bien. Ah, Joseph, il est d'accord aussi. Il est d'accord aussi. On touche pas à Stéphane Bern.
Si, on peut le toucher à Stéphane Bern. Alors là, même, tu lui fais tout ce que tu lui veux à Stéphane. Je crois même qu'il attend que ça.
Oui, je crois. Oh,
ouais. Je suis dans ce cliché de l'homme facile.
Alors, c'est un homme extrêmement facile. C'est un homme extrêmement facile, c'est connu.
Tu veux balancer les dossiers, ça va ?
Non, parce que je suis pas comme ça.
Tu vas avoir des gros problèmes. On parlait de ta chaîne YouTube tout à l'heure, Céline. Donc tu t'es fait striker une vidéo de prévention sur la sexualité. J'ai découvert aussi, tu fais des tutos de squat avec un mec. Il a des bras.
Je m'amuse.
C'est mes cuisses.
Ouais, parce que c'est un champion de culturisme qui a plus de 50 ans et qui a fait des années de culturisme, qui tient une salle dans laquelle je me suis entraînée.
Lui a 50 ans.
Je crois qu'il a 53 même.
Wow.
Il est en super forme. Et en fait, comme je m'entraînais dans sa salle, au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais quoi, moi, je ne savais pas utiliser les machines, ça me saoulait, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faut vraiment se faire coacher, parce qu'il y a vraiment moyen de se faire mal. Il y a des gens qui font n'importe quoi en salle de sport.
Et
ils y vont comme des bourrins en pensant qu'ils se font du bien. Et en fait, non, que nenni, figurez-vous. On peut faire du sport et se foutre en l'air,
grave,
tout comme on peut baiser aussi et se faire du mal. Et en fait, il faut connaître son corps, il y a aussi une technique. Et donc voilà, j'ai décidé de faire des tutos qui sont hyper accessibles, où il y a un peu d'humour. J'ai aussi fait des tutos de self-défense, parce qu'on parle souvent, justement, on parle de harcèlement, on parle malheureusement aussi d'agression. C'est pas un tuto qui va sauver votre vie, mais ça peut par contre parfois enseigner des mouvements qu'il faut de toute manière répéter, parce qu'encore une fois, c'est pas juste en regardant quelque chose qu'on va apprendre, il faut pratiquer. Donc ce sont des vidéos pour sensibiliser, donner quelques informations qui peuvent être utiles, où à chaque fois je fais intervenir un expert. En self-défense, c'était un prof de Penchaxilat qui vient des forces spéciales et qui s'y connaît vraiment, et en fitness, eh bien c'était un champion de culturisme.
Ça le fait de dire je viens des forces spéciales.
Ouais, c'est trop classe.
C'est trop la classe.
Ouais, il est trop la
Joseph,
classe.
Des forces spéciales.
Ouais.
Bah, t'es rassuré de ouf.
Tout à fait. Voici ma carte du club Musclor. Joseph, forces spéciales.
Non, en plus, ils sont vachement bien les tutos de self-défense.
On s'est bien marré. Et encore une fois, c'est de la prévention, parce qu'il ne s'agit pas juste. Lui, voilà, il donne des conseils très concrets. Il me racontait qu'à un moment donné, il avait justement été en contact avec une association féministe pour prodiguer des conseils. Et malheureusement, à un moment donné, l'échange a un peu coincé. Puisque, en fait, dans la prévention, en self-défense, il y a avant la confrontation physique, justement pour éviter d'être en danger, c'est d'être conscient de son environnement et de comment on est habillé et quelle heure est-il, et est-ce qu'il y a des gens autour de moi, est-ce que je suis isolée, est-ce que je suis en talon ou non. C'est des éléments à prendre en considération.
Des prises d'informations avant d'aller au fight, quoi.
Non, mais c'est sûr que quand on est une femme et qu'on décide de sortir, il faut penser à tout ça. Donc il ne s'agit pas de s'écraser et de dire je renonce à ma féminité, je ne sors plus, je ne bois plus, je m'amuse plus. C'est pas ça, c'est juste de dire au moment où vous sortez, soyez consciente que si par exemple vous mettez vos écouteurs, vous écoutez de la musique, vous êtes dans la rue, en fait c'est très, très animal. Vous êtes comme une proie en fait qui n'entend pas, et vous pouvez ne pas entendre quelqu'un qui vous suit par exemple. Donc dans la prévention il y a aussi ça, si vous savez que vous allez rentrer seul, peut-être qu'il faut vous arranger pour prendre un taxi, ou envisager d'avoir un manteau qui va vous couvrir, ou d'avoir une paire de baskets pour changer vos talons en baskets, parce que mine de rien, si vous êtes seul, au bout d'un moment le mec il en a rien à foutre du mouvement MeToo. En fait, c'est terrible, hein, mais c'est l'agresseur, il s'en fout. Donc, faut juste être consciente de ça et de faire en sorte de faire attention à soi.
Sans devenir parano, mais effectivement...
Non, mais il faut être vigilant.
Bah, il y a des situations...
Ce qui est juste bien, c'est qu'en pratiquant un petit peu la self-défense, t'as quand même la conscience de te dire je ne vais pas te sidérer, je peux me défendre.
Voilà.
Et d'éviter les moments de sidération au moment
c'est
de l'agression.
Parce que c'est à ce moment-là qu'on reste paralysé, on a peur, on ne sait pas comment réagir. Parfois, on peut être sidéré par un geste qui ne va pas forcément être un geste violent, mais juste quelqu'un qui va... Alors, c'est déjà un geste de trop, je suis d'accord, mais quelqu'un qui va poser peut-être une main sur le genou. C'est vrai que la personne, si elle ne s'est pas préparée à ça, malheureusement, elle peut rester complètement tétanisée et ne pas réagir. Et le traumatisme, il est créé. Et ensuite, c'est seulement après coup qu'elle va réagir et pousser son coup de gueule. Et l'idée dans la prévention et dans la self-défense, c'est d'être conscient, de se préparer psychologiquement à ça pour que lorsque ça arrive, déjà, le mec, il s'assoit en face de vous. Vous êtes seul dans le métro, vous vous levez, vous vous barrez, vous prenez vos distances. C'est déjà prendre ses distances. Ça commence par ça.
Prévenir, c'est guérir, j'ai envie de dire.
Voilà.
Et coup de pied dans la roue.
Et qui roule n'amasse pas mousse.
Tout à fait.
Vaut prévenir que guérir.
Oui, mieux vaut.
Mais c'est pas grave.
Cela étant dit, c'est important, même pour un mec.
Et pour un mec aussi, bien sûr.
Ouais, mais même pour un mec, le principe, c'est d'envoyer le message « je ne serai pas une proie facile ». Et non mais c'est vrai parce que du
oui,
coup
les raquettes aussi
c'est ça,
oui, c'est ça.
Moi j'ai connu ces trucs là gamin dans les quartiers, c'est que de base tu montres que t'es pas une proie facile. Du coup le mec il est pas courageux, hein. Le mec il va aller attaquer la personne qui est facile,
oui c'est ça,
c'est pas le message que tu renvoies, quoi.
Il va pas se prendre la tête avec quelqu'un qui est hargneux, ou tu fais comprendre que t'es hargneux, le mec il va passer au mec qui pisse dans son froc au bout de deux secondes parce qu'il a pas envie de se prendre la tête.
Oui, ce sont des lâches de toute manière.
De toute manière, ce sont des lâches, faut bien se dire ça. Donc le message je suis pas une proie facile, déjà beaucoup du travail est fait, je pense.
On nous parle de coup de pied dans les couilles, c'est le truc le plus radical.
Oui, c'est très bien. Ouais,
ça marche.
Après,
bien,
beaucoup
ça.
De mecs qui s'y préparent. Donc oui, en fait, faut viser les parties molles. Donc les couilles, la gorge, les yeux.
D'accord.
Vous tuez pas la personne. vous le tuez pas avec ça, mais vous faites en sorte que, en tout cas, il soit les yeux.
La fourchette.
Dans
quoi.
Les yeux, c'est. Ouais. Bon après les yeux, c'est vrai que c'est délicat parce qu'il faut être très précis. si vous loupez que vous allez sur le front, c'est dommage.
Ça s'écrase comme ça.
Donc voilà, il y a quand même des gestes. Après voilà, il y a plein de cas de figure. J'encourage vraiment les femmes à prendre des cours de self-défense parce qu'il y a les cours d'arts martiaux d'un côté, les cours de boxe c'est très bien, mais vraiment quand il s'agit d'apprendre des réflexes vraiment axés sur des situations d'agression, c'est la self-défense. Parce que vous pouvez très bien être ceinture noire d'arts martiaux et ne pas forcément être apte à vous défendre dans la rue. Parce que c'est pas le même boulot, quoi.
Mais les gens qui demandent sur les coups de pied dans les couilles, moi je trouve ça hyper important en fait ce que Céline a dit sur avant d'en arriver à là, c'est-à-dire la vigilance de l'espace. Parce que ça me fait penser, j'ai eu le cas une fois de me retrouver seule dans un métro le soir avec un mec qui essayait de me parler de loin et que je trouvais trop bizarre. Et le métro partait pas. Et en fait, j'ai pas fait de cours de self-défense, mais j'ai eu ce réflexe à un moment donné de me dire, alors en fait, ça va se fermer. Donc en fait, tous les gens, tu vois bien qu'ils vont dans d'autres wagons. Donc en fait, tu te casses en fait.
Mais c'est ça.
Et en fait, c'est juste à un moment donné avoir ce truc.
T'es
parce que, en fait,
courage,
si j'étais restée, tu te retrouves à devoir faire les coups dans les couilles et tout. Mais en fait, moi, j'ai jamais fait de cours, tout ça. Donc potentiellement, j'aurais même pas su le gérer. Donc en fait, juste déjà dire aux femmes, en fait, avant même d'en arriver à avoir ton shit et ton truc, c'est quelle est la situation de danger? Est-ce que je peux m'en extirper?
Il faut avoir du courage pour fuir, en fait. C'est ce truc qu'on dit jamais assez.
Oui, exactement.
C'est que déjà, le truc de fuir demande du courage.
Mais en fait, le problème, c'est que quand tu fuis devant quelqu'un qui a envie de t'agresser, tu te positionnes en tant que proie. Aussi montrer que tu t'en fous et qu'il se passe.
Ouais, mais tu passes à autre chose, tu vas ailleurs.
Après, tu vas ailleurs.
Faut avoir l'air de rien. Mais faut pas non plus être dans le genre, je suis tellement ta victime que je suis tétanisée, que je bouge pas et que j'attends que tu viennes me casser les burnes. Enfin, non, pas les burnes dans ce.
Les ovaires.
Voilà, c'est ça, mais on s'est compris.
Le premier conseil qu'on donne en cours de self-défense, c'est où est la sortie? Où est-ce que vous pouvez justement faire en sorte, c'est ça. Alors après, il y en a qui vont dire, mais oui, il n'y a pas de raison que je m'écrase, j'ai ma fierté. Au bout d'un moment, c'est quoi le plus important? C'est sa vie ou sa fierté? Donc voilà, après, rien n'empêche de le signaler, de sortir, d'aller voir du monde, de rentrer dans un établissement, de voir des contrôleurs et de leur signaler qu'il y a un individu qui a un comportement un peu bizarre. Mais faut mieux éviter de prendre le risque. Voilà.
Il faut agir et pas réagir. Joseph, on va bientôt jouer.
Dis-moi, à quoi jeu.
L'hélium, on va enfin avoir cette grande réponse qu'on se pose depuis une heure. Est-ce que Céline est allergique à l'hélium? On va savoir tout de suite. Avant que Anso ramène les ballons, on parlait d'expérience dans le porno. C'était quoi ton meilleur souvenir, ton plus beau souvenir?
C'est difficile, elle met tellement des bons, mais...
Pas forcément en scène, mais tu t'es dit, je suis content, dans cet hôtel, je me sens trop bien. Ça, c'était cool.
Non, les hôtels, on se sent souvent seul, finalement. On se sent très seul. Non, j'ai beaucoup de fou rires. J'ai des fou rires de tournage où on se fait engueuler par le réel parce qu'on commence à baiser. En fait, on se cache avec l'acteur, on se planque derrière le canapé et le réalisateur n'est pas encore prêt. Et en fait, on se retrouve à se cacher pour commencer parce qu'on en a marre d'attendre. Et le réel nous dit non, vous devez attendre, vous devez garder votre énergie pour le tournage. C'est des petits moments en fait qui me rappelle que c'était vraiment cool. Et c'est pour ça que ça me saoule en fait d'entendre autant de mal sur ce métier, même si clairement c'est vrai qu'il y a plein de choses à changer et il y a des gens qui sont pas toujours nets dans ce milieu, c'est vrai, mais enfin quand même j'ai tellement de bons souvenirs. Et s'il y en a un qui doit ressortir aussi, c'est une scène que je décris dans mon bouquin où vraiment j'ai un déclic sexuel avec un acteur qui est Mark Davis. Et où je découvre ce que c'est que l'état de transe pendant une scène porno. Parce que jusqu'à présent, j'étais que dans le contrôle, dans le métier d'actrice, où je bouge pour les besoins de la caméra. Et là, à un moment donné, c'est une scène avec lui et un autre acteur. Et mon cerveau qui part en vrille. Et c'est
T'étais dans un mood particulier ou c'est vraiment ce qui s'est passé pendant cette scène et ce mec, justement?
C'est lui qui a déclenché parce que c'est un amant exceptionnel. Et surtout, le mec, il est là pour faire son boulot, mais en fait, il se passe tellement plus que ça. Et vraiment, à ce moment-là, il a créé un lien. Il m'a initiée, en fait. Je ne connaissais pas les rapports de domination.
À quel moment de ta carrière?
C'était lors de mon premier séjour aux États-Unis où j'ai découvert le gonzo.
D'accord.
Jusqu'à présent, je ne connaissais que les films scénarisés, structurés, soignés. Mais c'est pas dans ce genre de film qu'on prend le plus de plaisir parce que c'est tellement soigné justement que il faut
tellement codifié,
on n'a pas de spontanéité. Et là d'un seul coup en fait c'était très bizarre parce que j'ai plein de culpabilité en moi en me disant oh là là mais il touche mes pieds mais moi j'ai honte de mes pieds et en même temps c'était j'ai honte mais waouh c'est trop bon
c'est trop bien,
la honte rajoutait au plaisir et puis
c'était
quelqu'un de très dominateur. Et là, vraiment, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était que le vrai lâcher prise dans le sexe. Et après, je n'ai fait que rechercher ça à travers mes scènes. Donc voilà, je suis un peu tombée amoureuse de lui quand même pendant cette scène. Carrément même.
Et t'as retourné avec lui ou pas après?
Ouais.
Je veux retourner que ce mec-là.
Oui, je faisais des caprices. À chaque fois, je disais à mon agent, ouais, dis donc, demain, tu pourrais pas me booker avec Mark Davis. Quand en fait, j'avais des chouchous, j'osais pas. On est des très mauvais dragueurs, en fait, acteurs et actrices, on sait pas draguer. Et donc, ce qui était hyper pratique, c'était de demander aux prods et aux agents de nous booker ensemble. Donc, on avait trop hâte, en fait, de se retrouver pour tourner ensemble.
Parce que c'est ce que tu dis aussi dans ton bouquin, comment draguer et tout. C'est une question que tu t'es posée, toi, ta propre sexualité, ton propre rapport à l'autre, etc. Dans ta relation, c'est pas forcément évident quand on est tout le temps dans.
Oui, parce que c'est tellement pratique. On fait du porno, on sait quelle pratique on va faire. Parfois, on se dit, oh non, j'ai pas envie de faire des scènes de domination, je vais faire que du girl-girl. Donc voilà, donc on dit à l'agent, j'ai envie de faire que du girl-girl. Après, peut-être qu'on va moins bosser, mais c'est quand même super de pouvoir choisir ses pratiques sexuelles avec qui.
Je suis plus double peiné en ce moment, c'est à la carte quoi.
Ouais,
d'accord. Ouais. Et après, effectivement, dans la vie de tous les jours, t'as pas les réponses et puis tu peux, c'est pas à la carte quoi. Donc,
c'est plus compliqué.
Tu peux pas aller voir un mec dans un bar.
Je regrette. Je vais prendre un autre pseudo et je vais mettre une perruque et je vais refaire du porno. Non, mais c'est vrai, la dernière fois, je me disais merde en fait. Ça me manque.
astuce. Est-ce qu'on peut amener les ballons? On va
un hashtag comme back.
Alors le principe est simple. Anso va vous donner des ballons.
Ça
me fait peur, ça, je peux pas le faire.
Mais ça fait un peu flipper aussi, mais on est solidaires.
Alors même si vous utilisez tout l'hélium, Il faut en penser.
C'est pas dangereux.
Je comprends pas ce qu'il faut.
Dangereux, je ne sais pas.
C'est absolument pas dangereux. C'est absolument pas dangereux.
Tu avales. Point, t'avales comme quand tu fumes et que tu ressors le truc.
Non, tu aspires, tu comme ça.
Ouais, ouais, comme quand tu. Oui, oui.
Alors, je vous rassure,
tu respires le truc. Ouais.
Personne n'est mort après un quiz à l'hélium.
Jamais, jamais. Rassurez-vous. Les enfants font ça pour leurs anniversaires. Tout va bien.
Voilà. Donc, on va avoir un auditeur au téléphone. Joseph, est-ce que, mais non.
Alors, il faut me donner le numéro, mon petit gars, parce que sinon, moi, je peux pas l'appeler.
Ça part toujours. Ça part toujours. Ça part toujours au coup.
Non, non, non. Il faut que tu fasses une vidéo.
Qui est cet auditeur?
Mais enregistre une vidéo.
Tu as deux ballons. Vous avez les mains prises.
Ça fait beaucoup.
Je peux avoir mon portable? Parce qu'il faut que je filme ce moment.
T'as aucune main pour filmer. D'accord. Ah bah si. Bah ouais.
Ouais, mais tu sais. Technique
de doigts. Ouais, technique de doigts.
Je peux en prendre d'autres, tu sais.
Très bien.
Mais l'auditeur, on le prend au téléphone ou il choisit juste une équipe?
Non, on le prend au téléphone.
Il va faire quoi au téléphone? Il a pas d'hélium, l'auditeur?
Eh ben, il va dire quelle équipe va gagner. Voilà, c'est ça. Vous allez jouer en équipe, Loulou, pour répondre à des questions que je vous pose.
D'accord.
Ça a toujours été ça depuis des mois qu'on fait ce jeu à la con, Joseph.
Oui, mais pas besoin de l'avoir au téléphone, c'est ça que je voulais dire.
Bon, ça serait bien. Est-ce que Anso, on a quelqu'un au téléphone? Ah, faut trouver, d'accord.
Tu vois, faut trouver. Demande déjà qui veut être avec quelle équipe. Voilà. Comme on faisait avant.
Comment on faisait avant?
On faisait comme ça avant. On faisait. Vous choisissez telle équipe ou telle équipe.
Est-ce que je suis dans l'équipe de Joseph?
Mais tu sais, avant on n'avait pas le. Alors, gâche pas ton gaz.
Gâche pas.
Gâche pas.
Lady
Gagache.
Gâche pas ton gaz.
Il agache. Alors, vous allez jouer en équipe. Je vais. Flore et Tatiana ensemble.
Ah cool.
Voilà.
Quoi, on va répondre à des questions ou quoi?
Oui. Il y a des questions. Mais vous jouez en équipe parce que sinon c'est trop compliqué, etc. Et Joseph avec toi, Céline. D'accord.
Ok.
Donc je vais laisser.
Ne regarde pas comme ça, Céline.
T'as critiqué Stéphane Bern.
Oh non, pas bien, pas bien.
J'ai pas du tout critiqué Stéphane Bern.
T'as pas critiqué Stéphane Bern.
Absolument pas. J'ai juste dit qu'il était open.
On attend tout simplement deux participants dans la room pour jouer avec nous. Je rappelle qu'il y a un sextoy. Moi, je veux juste deux pseudos, Anso. Tu me donnes deux pseudos.
Voilà, ils choisissent leurs équipes.
Voilà, ils choisissent leurs équipes. Ceux qui veulent jouer avec la team Joseph et Céline, vous dites
Joline.
Joline.
Et Flotiania.
Voilà.
Et Flore. Tatiana. Tatiana.
Non. Floria. Floria. Joline ou Floria?
Floriana. Flotiana.
Si. Flotiana.
On se complique la vie des fois. C'est
ouais, non, mais Floria et Joline, arrête. Ça va, oui.
Voilà, alors, est-ce qu'on a les deux participants? Elle arrive, tout simplement. toi, t'es en suspense de ouf, Tatiana. T'as déjà fait l'hélium, toi?
J'ai l'impression que je vais mourir, en fait.
Eh ben non.
Non mais demande pas comme si t'avais déjà pris du LSD. T'as déjà fait l'hélium. Tu vas voir, c'est super. Alors Pépétone et Brad Féline. Voilà.
Voilà. On les a tout le temps.
Alors Pépétone,
ça va être l'équipe Floria.
Ah bah super.
Ah bah voilà,
Et Brad Féline, Joline.
Bon alors on va jouer.
Parce que ça rime.
Mais c'est quoi ces questions?
Je vais te dire. Ne triche pas. Attention Céline, c'est hyper sérieux.
Il y a des choses à gagner en jeu.
Il y en a qui perdent du gaz. Alors on fait un hélium quiz spécial. Est-ce qu'on peut regonfler le ballon de Céline?
Eh ben voilà, disons. C'est incroyable, tu lui as vidé les couilles. Oh, boum, ça y est.
Même le ballon est ému.
Merde alors.
C'est pas grave, tu en as un deuxième. Spécial Movember, parce que c'est Movember le mois pour la prévention du cancer chez les boys. Et Movember, c'est la moustache.
Mm-hmm. La moustache.
Les garçons se laissent pousser la moustache.
Et donc, voilà.
Je vais vous poser des questions de personnalités qui portent une moustache. À vous de me dire.
Mais Tom Selleck.
Mais quelle est cette personnalité? Est-ce que vous êtes prêts?
Bah attends, c'est très compliqué.
Et alors,
vous prenez de l'hélium et vous devez répondre à la question.
Mais n'oubliez pas de parler dans votre micro aussi.
Voilà, c'est très très important. Alors, ce mec a une moustache. Le mec qui fait du foot, il a même été champion du monde en juillet dernier avec l'équipe de France.
Bon,
en même temps,
Adil Rami. Bra.
Le foot, laisse tomber.
C'était une question foot, il y aura d'autres choses.
Bon, il est devenu célibataire au moment, mais on peut pas tout avoir. Champion du monde et garder Pamela Anderson, par exemple. Avec une moustache.
En plus, ça fait beaucoup de responsabilités.
Un petit peu abusé. Donc, Joseph, bien joué.
Joline.
Ouais, bien joué.
On peut faire un test ou pas pour voir si ça marche?
Vas-y. Suspense. Suspense.
Il faut aspirer, hein.
Faut aspirer.
Est-ce que ça marche?
Ouais, ça ouais, marche, toi, ça marche.
Ça marche.
Ah, dis donc, t'as vu, c'est très bien.
Bah voilà.
Je me mettrai la chanson.
Bah ouais.
Salut.
C'est archi mignon.
Où sont les femmes? Oh, j'ai envie que ce soit ma voix naturelle.
Ça part pas, en fait. Hein. Bah oui, ça peut rester bloqué chez les gens. Ouais. Ça peut rester bloqué. C'est normal. C'est normal.
Deuxième question.
Deuxième question. C'est le mec qui est giga BG avec une carrière de ouf. Mais tu te souviens que de ce film dans lequel il conduit une voiture et qui tabasse un mec dans un ascenseur?
J'ai pas suivi.
Oh là là, Bert Reynolds.
Non, non, non.
Je sais pas.
Ah, oui, Drive.
Ouais,
c'est qui l'acteur?
Ryan Gosling.
Je vais accorder ce point à Céline.
Parce que vous l'avez pas dit avec la voix.
Ouais, c'est ça, faut avoir la voix d'homme. Hein.
C'est ça. Il a une moustache dans Drive, ce petit,
il a pas de moustache,
ce petit gars.
C'est un acteur qui a eu un jour une moustache.
Ah non, il a pas de moustache dans Drive.
J'ai pas dit qu'il avait une moustache dans Drive.
Il a une moustache dans le film où il fait le vieux garçon là avec la poupée.
Eh bah tu vois, on se souvient.
La copine de... Ouais.
Hein?
Ouais.
Bah tu vois.
Ouais, absolument.
Et on se souvient jamais de ses autres films.
Non mais tous les hommes ont porté un jour la moustache.
Eh bah non, pas moi mon gars.
Bah qu'est-ce que t'as là sur le... Ah non, c'est un bouc.
Non, j'ai un bouc, moi. Jamais de ma vie, tu me verras avec un bouc, mec. J'ai une petite bobarde.
D'accord.
Troisième question. C'est le mec qui faisait de la guitare comme un dieu, mais il y a genre très, 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 très longtemps et qui a fini par la brûler un jour à un concert en festival.
Frank Zappa.
Non, pas du tout. Il faisait de la musique, faisait de la guitare. Ouais. Il est mort dans son vomi, me semble.
Corbier ?
Non, il prenait beaucoup de drogue. Mais si, il a brûlé sa guitare un jour en festival.
Jimi Hendrix. Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix.
Ah là,
mais j'avais la voix.
Non, t'avais pas.
J'avais la voix.
C'est hyper.
Je l'ai dit comme ça, Jimi Hendrix, bordel.
Il faut savoir que Joseph, il est directement à la bouteille. Hein. Il a la bouche sur le réservoir.
Bonbonne de gueule. Ok.
Ouais.
Bah, du coup, il y a quoi? Il y a 2-1. Il y a 2-1, il y a 2-1. Ça remonte.
Piqué, hein. Je te l'ai vraiment piqué là pour le coup.
Ouais, je sais.
Quatrième et avant-dernière question sur ces mecs qui portent une moustache. T'es prête beaucoup trop tôt, Céline. C'est le mec qui a joué des rôles inoubliables au cinéma pendant 20 ans, mais qui maintenant enterre dans le désert un collier pour une pub de parfum.
Johnny Depp.
Ah, oh, putain.
Johnny Depp.
Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp.
Putain. Je l'avais.
Il n'y a pas un instant replay pour entendre.
Surtout qu'il est. Tu l'enterres un peu vite, ce Johnny Depp. Hein. Tu l'enterres un peu vite.
Non, Johnny Depp, il est éclaté maintenant.
Non, bah il n'est pas du tout claqué. Ouais.
Bah oui.
Il est claqué d'où?
Il est dead là.
Il est dead. Vous lisez trop la presse People.
Non, on voit comment.
Il s'est tapé une sale meuf, mais il n'est pas dead pour autant.
Rien à voir avec ses relations. C'est juste
c'est elle qui l'a cramé, sa meuf, là, qui lui a niqué sa réputation.
Amber,
totale. C'est grave.
Mais elle lui a pas niqué sa gueule. Il a juste une sale gueule maintenant.
Mais qu'est-ce que t'en sais? Elle lui a mis de l'héroïne dans ses petits Suisses pendant 4 ans. Ça donne une drôle de gueule après. Attends,
c'est tellement facile d'accuser les filles.
Ouais,
c'est ah oui, alors forcément, c'est parce que c'est une fille que c'est facile de l'accuser. Donc du coup, on peut plus accuser personne comme
sexuelle. Quoi qu'il en soit, Brad Pellin a déjà gagné le sextolello, mais il y a une dernière question.
Arrête, qui m'a piqué mon... C'est Céline qui m'a piqué mon Johnny Depp.
Sans vergogne.
Bah oui, bah oui.
Bah oui.
Alors. Vous êtes prêts? T'as fait pas mal. Le mec qui, avec son groupe, a réinventé le rock et fait soulever les stades du monde entier.
Freddie Mercury.
Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.
J'étais sûr, je l'attendais.
Ben c'est la biopic. C'est la biopic.
Et le film qui est sorti.
Bohemian
Rhapsody.
Oui.
Qui l'a vu?
Bah personne.
Personne.
Ben non, c'est pas encore sorti.
Il est sorti mercredi dernier.
Bien sûr que si, il est sorti enfin.
Bah oui.
Mais qui va voir les biopics? C'est de la merde, les biopics.
Non, mais il paraît que c'est un chef-d'œuvre.
Ah bon? On dit ça à chaque fois. Oh, quel Ray Charles! Oh, quel Edith Piaf! Oh, quel machin! Mais en fait, on se fait chier pendant ces films, non?
Oh, il est chiant lui aussi!
T'as vu, hein, mauvais, hein, mauvais, ça l'esprit!
Ah ouais.
Hein.
Oh, bah c'est pas.
C'est parce qu'il veut pas avouer sa bisexualité.
C'est ça.
Ouais. C'est vrai que généralement, quand on a envie de se faire enculer, on dit qu'on aime pas les biopics, c'est un code. C'est le truc, tu vois, quand tu rentres dans l'endroit où tu te fais enculer, les biopics, c'est de la merde, entre. Et là, tu passes une soirée de ouf. Mais en secret. Pour pas perdre ma virilité.
C'est beau.
C'était une très longue phrase.
C'était une très longue phrase.
En fait, il y avait plusieurs phrases. Hein, j'ai respiré. Hein.
Ouais, ouais.
Non, il y avait plusieurs phrases.
Ouais. Je crois que c'était la phrase la plus chiante de cette émission.
Tu vois, la météo, c'était moins chiant du coup.
Ouais, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Oh, bah, sinon, je vous coupe tous le son et l'image et je vous encule. Hein.
On m'a critiqué aussi, sur hein. Stéphane Bern, sur la météo, effectivement. Et au final, c'est toi qui te fais défoncer. Il y a une justice quelque part, Joseph. Vas-y, Céline.
Vas-y, on te voit là. On te voit.
Le mot de la fin, c'est pour toi.
Ouais. Non, mais c'est déjà fini là.
Oui, c'est
déjà... Je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Bon, sinon, c'est à quelle heure la partouze?
Et la partouze, c'est après l'émission. Il est bientôt 22h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tatiana, déculotté.com, .freux. Et puis, moi, j'ai un truc à dire, c'est qu'on te retrouve au mois de novembre l'année prochaine.
Bah, je suis là tous les ans.
Parce que tu as participé au calendrier Wild et on va te voir dans le calendrier 2019. La photo est canon et je voulais encore te remercier d'avoir participé.
Mais je te remercie.
Parce que tu as accepté très très vite, j'ai pas besoin de te convaincre et on a beaucoup aimé t'avoir dans ce calendrier et c'était archi canon.
Dans le calendrier ?
Ouais.
Oh là là, voilà. J'ai trop hâte de voir ça.
Et ben on va te montrer ça à la fin de cette émission.
Il y a aussi... Stéphane Bern aussi dans le calendrier, tu vas kiffer.
Et Flore et moi aussi dans le calendrier, on est le mois de décembre, pour passer 2020 tranquillou. Céline Tran, merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission. C'était très drôle. Voilà, tu es très marrante.
Je ne vois pas de quoi tu veux parler.
On a appris
je
à
suis
mettre
pas là pour plaisanter, moi.
On a appris à mettre des fourchettes dans les parties molles des garçons et plein de choses encore. Ne me dis pas que tu aimes ça aux
ne
émissions.
Ne dis pas que tu aimes ça.
Ah, tu vois, on fait
tous
les deux.
Non, mais oh
bah, fallait pas
appeler personne. Ne dis à personne, ne me dis pas à personne.
Ne dis rien, mon gars, c'est hyper important.
Ferme ta gueule. Voilà.
Mon livre s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça.
Et c'est aux éditions Fire,
Fire, bordel de merde.
Ne dis pas que t'aimes l'hélium.
Aussi parce que je les ai ramenés sinon de ces petites bandes dessinées.
Ouais.
Par Nen Pop. Édition Glénat. Collection dirigée par Céline Tran. C'est super chouette. Ça, c'est un super guide sur les sextoys. Et ça,
c'est mignon.
Hyper drôle. Complètement barré pour lecteurs avertis.
Et
adulte.
Et adulte.
Ah, oui, adulte. Moins de 18 ans, il faut pas lire ce bouquin.
Malgré les dessins.
Vous irez en enfer.
Et puis un mot, Flore, si on a envie de vous voir, peut-être que tu seras là aussi au Salon de la littérature érotique.
Yes,
c'est quand
c'est le samedi 24 novembre à la Bellevilloise. Il y aura Céline.
À Paris,
évidemment. 15h à 21h, il y aura Céline qui sera là. Et puis toi, tu passeras aussi.
Mais évidemment, je serai là aussi. Je serai là, voilà. Et puis voilà. Moi, je trouve que c'est.
Tu viens ?
Peut-être que je serai
peut-être,
là.
Peut-être,
elle s'est fait désirer. Oh là là.
Ouais, on ne sait pas encore.
Alors, depuis qu'elle a posé le calendrier, ça y est. Quoi.
Ça y est, c'est un peu. Elle a une tournée mondiale à
changer.
Peut-être qu'elle a une sortie familiale avant et elle ne pourra pas venir.
Glauque incompatible.
Voilà. Le glauque peut être très très beau. Et moi, je milite aussi pour le glauque. Voilà. Le glauque est beau.
Ouais, le sale.
Le sale est beau.
Et comme j'aime le dire dans mes coachings en sexualité, c'est peut-être sale, mais ce n'est pas mal.
Non, c'est vrai. Et ce sera le mot de la fin. Joseph,
ce n'est pas sale.
Ce n'est pas sale, voilà.
C'est ton corps.
Allez,
il change.
Excellente soirée. Passez une bonne semaine parce que c'est que lundi. C'est que lundi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler des mots du cul. On aura une linguiste dans cette émission. Et ça part pas. Voilà. Et. Il y a des mots des fois qu'on utilise dans la vie de tous les jours et en fait c'est un truc de cul, voilà, à l'époque de Cléopâtre.
Les mots du cul.
Voilà.
Et un proctologue alors aussi.
Et un proctologue. Voilà. Allez, gros bisous et puis à la semaine prochaine.
Ciao ciao.
Voilà. Bisous la roue.
Bisous.
Bisous sur les sifs.
Voilà. Sur les sifs.
Sur les sifs, ouais, le mec en a 12.
Ah ouais, vache, les sifs, mon dieu.
Voilà.
Les contrats individuels de formation.
Maintenant, elle va faire que des trucs, elle va monter un porno alternatif à l'hélium.